Je pense que en fait, ce qu'il faut apprendre à développer, si tu veux durer, c'est l'amour de s'entraîner, en fait, davantage que l'amour de performer. Et que si tu développes l'amour de l'entraînement, tu vas performer. C'est quand même très corrélé. Alors après, il peut y avoir un moment où tu as plus envie de faire de compétition, tout en ayant toujours envie de t'entraîner, mais tu peux pas avoir envie d'être performant sans avoir envie de t'entraîner. Donc il y a des gens qui vont avoir une motivation qui est liée qu'à la compétition et qui du coup vont s'entraîner uniquement pour la compétition. La problématique de ça, c'est que je pense que ça fonctionne tant que tu réussis en compétition, mais dès lors que tes résultats sont pas à la hauteur de tes attentes, et ben tu trouves pas du sens dans tout ce que tu as fait. Et souvent, ces gens-là, ils vont, je pense, parler de sacrifice. Moi, je parle plus du tout de sacrifice dans ma pratique sportive.
Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalue et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous deux fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour et découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans cet épisode Nicolas Martin. Figure majeure du trail de haut niveau à l'échelle nationale comme internationale, Nicolas va partager avec nous aujourd'hui sa récente performance à l'occasion des championnats du monde de trail à Chiang Mai en Thaïlande. Une compétition sur laquelle il a brillé à la fois en individuel mais aussi avec l'équipe de France, revenant ainsi auréolé de deux médailles d'argent à ajouter à sa collection déjà bien garnie. Cette remarquable performance est l'occasion rêvée d'évoquer plus largement le parcours de Nicolas, âgé aujourd'hui de 36 ans, et la façon dont son rapport à la course à pied a évolué au fil des années sans que jamais ne s'atténue sa passion viscérale pour ce sport. Un entretien d'une grande profondeur au regard de l'expérience et de la sagesse de Nicolas, et d'une précieuse authenticité, tant Nicolas aime à livrer ses points de vue sans détour. J'espère que vous passerez un aussi bon moment que moi en sa compagnie. Mais je ne vous en dis pas plus. Nicolas va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Vice et Vertu. Bonjour Nicolas, je suis ravi d'échanger avec toi dans ce nouvel épisode de Course Épique. Comment ça va ?
Ça va bien, dans le froid actuel, mais je viens de passer quelques jours dans le sud de la France, du côté du Luberon, donc c'est sympa malgré la petite fraîcheur matinale. On a pu faire quelques kilomètres avec le Team Brooks, donc tout va bien.
Chanceux, moi je me caille aussi, j'ai l'impression de me cailler depuis le début de l'hiver là. Nicolas, on enregistre cet épisode le 27 janvier, alors le 27 janvier, je suis sûr que tu le sais, mais c'est la date de naissance de Mozart, c'est la date de naissance de Lewis Carroll qui est l'auteur de Alice au Pays des Merveilles. C'est aussi la date de naissance du youtubeur français Squeezie et aussi du biathlète Björn Dahlen qui a été longtemps l'athlète le plus médaillé aux Jeux Olympiques d'hiver avec 13 médailles entre 1998 et 2014. Avec laquelle de ces quatre personnalités est-ce que tu aurais aimé passer ce soir un petit dîner d'anniversaire avec eux ? Mozart, Lewis Carroll, Squeezie ou Björn Dahlen ? Ou
tu préfères rester chez toi ? Comme je suis quand même passionné de sport, je vais dire Björn Dahlen.
Ouais, je m'attendais globalement à ce que tu me dises, ça. Et tu parles norvégien ?
Pas du tout, mais je pense que tu parles un peu anglais et je n'ose pas dire que je parle anglais, mais j'arrive à me faire comprendre en anglais, on va dire.
Okay. Nicolas, traditionnelle question d'ouverture de ce podcast, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots à nos auditeurs ? Et je t'impose juste une petite chose, pas le droit de parler de sport ni de course à pied. Qu'est-ce que tu peux bien nous dire sur ton parcours, sur qui tu es, pour les gens qui ne te connaîtraient peut-être pas ?
Eh ben, Nicolas Martin, je vais avoir 37 ans en 2023 si tout va bien. J'habite dans le sud Isère, une petite commune d'environ 150 habitants dans le Trièves, donc qui est une petite région coincée entre les Hautes-Alpes et la Drôme dans l'extrême sud du département de l'Isère. Donc je grandis ici depuis que je suis tout petit, zone rurale, mes parents étaient on pas mal issu, pas vraiment du milieu agricole, mais mon papa était agriculteur. Après, il avait une entreprise de travaux agricoles et publics. Donc, j'ai passé mon enfance dans ce territoire très préservé. Je suis allé au collège, dans un petit collège où il y avait 200 habitants, avec la découverte un peu du sport à ce moment-là, parce qu'on avait sport de pleine nature. Et puis après, j'ai eu un parcours scolaire, voilà, c'est classique. J'ai fait un lycée général. Et puis après, je me suis un petit peu perdu à la fac pendant 2 ans en physique chimie, puis ça me convenait pas trop la manière de travailler. Et puis finalement, je finis mes études, on va dire classiques, par un BTS gestion forestière et puis après une licence pro dans le domaine du bois, mais dans lequel j'ai jamais exercé. Et voilà, et puis j'ai toujours eu un peu la passion du sport en tant que spectateur, pas forcément dans une famille sportive, mais toujours une enfance active, comme je te disais, quand tu vis à la campagne, bah, t'as des activités quand même souvent tournées autour du sport, que ce soit le football, j'ai joué au foot jusqu'à 15 ans, et puis petit à petit, je suis venu dans le milieu du trail, et actuellement, bah, voilà, ça va être un peu dur de parler de moi sans parler de l'activité trail, parce que...
J'allais dire, t'as presque réussi à pas parler de sport jusqu'à maintenant.
Ouais, c'est, bah, maintenant, ce serait difficile parce que, en fait, mon activité professionnelle tourne autour de ça. Et puis, j'ai aussi une activité semi-professionnelle d'athlète. Donc, c'est une bonne partie de ma vie. Mais voilà, j'ai quand même toujours cet attrait pour la nature. Et c'est très corrélé, en fait, le sport et la nature. Et c'est assez indissociable chez moi. Je suis pas un passionné de courir sur la route, par exemple. Tu vois, je suis beaucoup plus, j'aime le sport dans l'environnement dans lequel je vis.
T'as jamais envie de déménager ?
J'ai vécu un petit peu en Savoie et en Haute-Savoie, mais c'était toujours un peu les mêmes territoires. Voilà, j'ai quand même besoin de cette proximité de la montagne et de la nature. Il y a d'autres territoires très beaux en France. J'étais dans le Luberon, c'est très joli, mais c'est pas forcément les territoires où j'aurais envie de vivre tout le temps, quoi.
J'arriverai pas à te convaincre de venir avec moi à Paris et qu'on aille courir à Montmartre. Et
que ça, je pense que personne n'a de bourse assez importante pour me convaincre de vivre à Paris.
Nicolas, tu nous l'as dit, tu as d'abord évolué crampon au pied jusqu'à tes 15 ans. Cet intérêt pour le foot, il est né comment ? C'est un peu comme tous les gamins. Est-ce que tu as baigné dans un environnement qui était très porté vers ce sport-là ? Et puis, qu'est-ce qui t'a plu ? C'était quoi le côté collectif, hyper ludique de ce sport ? C'était un défouloir comme aurait pu l'être un autre sport ? C'était quoi ton rapport ? Foot.
Le foot, c'était, je pense, le fait que c'est quand même un des sports les plus pratiqués vraiment au début. Et après, ça a été davantage une manière de passer du temps avec les copains, de partager. Je pense que le type de sport était presque secondaire. C'était vraiment passer du bon temps avec les copains, faire les matchs. Voilà, on était vraiment un tout petit club, donc. On a eu la chance d'avoir entre guillemets une génération de joueurs qui avaient un peu plus. Qui avait gagné un peu ce qu'on appelle les fagnons, c'est-à-dire remporter le championnat un petit peu. Enfin, on jouait au niveau district, hein, départemental, mais on a été la première fois, enfin, la première équipe du club à gagner ça. Donc, ça a été une belle aventure. Et puis après, j'aimais beaucoup le foot. Après, c'était plus mon autre passion un petit peu de l'époque. Mon papa était chasseur et on avait des chiens de chasse et c'était pas trop compatible avec les matchs de foot parce que c'est vrai que les sports collectifs, ça a cette dimension partage, mais ça a aussi cette dimension d'imposer des contraintes parce que bah tu peux pratiquer qu'avec le groupe. Donc c'est comme ça que j'ai arrêté le foot et après je pense que si j'avais pas
sans regret.
Non, sans regret. J'ai rejoué pendant une saison quand j'avais commencé à faire plus du trail. Mais ouais, il y a vraiment ce que j'ai aimé dans l'activité après trail, course à pied, c'était quand même cette facilité de pratiquer un peu quand c'est adapté parfaitement à ta vie, quand t'as un moment. Donc c'est un peu pour ça. Après, on peut pas tout faire un petit peu des choix. Après, quand t'as une carrière un peu d'athlète de haut niveau, c'est quand même très focus sur la performance. Et du coup, ça a des bons côtés, mais ça a aussi des fois des côtés un petit peu plus limitatifs.
T'avais des posters de footballeurs dans ta chambre ? T'avais des icônes de jeunesse ou pas ?
J'ai jamais été très fan, mais j'aimais bien les Girondins de Bordeaux. Et quand j'étais jeune, c'était l'époque de Zidane, Dugarry, Lizarazu au Girondins de Bordeaux. Donc ouais, c'est un peu, après je pense comme tous ceux...
Un peu comme dans ton club, c'était la bonne génération aussi, un peu comme à ton époque au district.
C'est ça, mais, voilà. Et puis, puis je pense que comme tous les jeunes plus ou moins de mon âge, on va dire, qui sont nés dans les années 80, on a quand même vécu la Coupe du Monde de foot 98, et ça nous a quand même marqué parce que ouais, moi j'avais 12 ans, je jouais au foot, j'étais quand même passionné par le foot et je pense que ouais, forcément Zidane a un petit peu marqué notre génération dans le sport par ce qu'il faisait. Puis ouais, j'ai 2-3 souvenirs de foot, enfin même plus, moi ça m'a presque plus marqué en 2006 quand c'est un peu sa dernière compétition où il marchait un petit peu sur l'eau, mais j'ai jamais été hyper fan et c'est même le cas dans les autres sports. Je suis admiratif, notamment cette année. Enfin, un petit pincement au cœur avec l'annonce de l'arrêt de carrière de Thibaut Pinot en fin de saison. mais c'est plus dans l'émotion qui transmet, puis aussi ce côté un peu proximité, tu vois, de quelqu'un qui me ressemble, entre guillemets, j'ai l'impression qu'il aurait pu passer toute sa vie dans un territoire rural s'il n'avait pas eu un talent qui sortait un petit peu de la norme pour le sport, quoi. Donc, ouais, ça me touche un petit peu de se dire qu'à chaque fois qu'on le verra, ce sera l'une de ses dernières courses, quoi.
Pour en revenir à ton intérêt pour la chasse qui a succédé donc au foot, est-ce que toi, maintenant, tu peux me donner la réponse que chercher à trouver les inconnus, la différence entre un bon et un mauvais chasseur, toi, tu la connais ou pas?
Moi, je dirais que c'est très, c'est très caricatural. En fait, dans la chasse, ça dépend ce qu'on met, mais moi, c'était vraiment passer du temps dehors. Et en fait, même maintenant, si j'y vais moins, passe beaucoup de temps dehors avec ma pratique sportive, mais en fait, je vis autre chose quand je vais à la chasse. C'est beaucoup plus apprécier un environnement plus restreint que ce que tu peux faire quand tu vas courir ou tu vas faire plus de kilomètres. Et du coup, c'est très différent. Mais tu vois, moi, c'est ce qui m'a donné envie de ça, c'est les souvenirs des journées un peu de fin octobre, début novembre, où t'as encore les feuilles qui changent de couleur, les premières gelées, ces paysages où voilà, t'es à 7h30, 8h du matin, tout seul dans la forêt. T'as vraiment l'impression d'être seul au monde. Et c'était vraiment ça, moi, qui me motivait. Et bon, la chasse, c'était une manière de faire. Ça aurait pu être faire de la photo maintenant, tu vois. Ça, c'est vraiment plus une motivation d'y aller, mais c'est pas la chasse comme elle est perçue souvent dans le grand public, quoi.
Il y a des bons ravitaux aussi dans la chasse.
Oui, c'est vrai que voilà. Après, moi, j'étais quand même vraiment focus avec les chiens. Je passais beaucoup de temps dehors, courir après les chiens pour les récupérer, parce qu'en fait, souvent, nous, c'est des territoires où c'est quand même assez grand avec pas beaucoup de chasseurs, donc. Tu passes, je sais pas, dans une saison de chasse, moins de 10% avec une arme à feu, et tout le reste du temps, tu le passes à repérer les animaux ou à essayer de récupérer les chiens quand ils sont sortis de la traque. Donc, c'était aussi une activité quand même assez sportive. Et c'est ce que j'aimais. Et maintenant que j'ai plus trop les chiens de chasse, moi, ça m'intéresse pas du tout d'aller attendre dans la forêt que les animaux passent à proximité. C'est pas du tout mon caractère, quoi.
Surtout au mois de janvier.
Ouais, bah là ces jours-ci, c'est faut être bien habillé, quoi.
Nicolas, tu nous l'as dit, donc la course à pied, elle est finalement arrivée à toi de façon très naturelle, un peu dans ton quotidien, parce que c'était finalement très accessible et très pratique. Tu as pratiqué de façon relativement loisir pendant 7-8 ans, puis ça l'a été de moins en moins. Est-ce que c'est quelque chose que tu t'es interdit pendant un temps de considérer cette pratique de façon un peu plus assidue, avec un regard un peu plus orienté vers la performance? Est-ce que c'est quelque chose que tu avais jamais vraiment envisagé? Comment est-ce que tout ça a commencé un peu à prendre de la place? Est-ce que c'est les résultats qui finalement ont dicté cette orientation et puis tes ambitions?
Bah, j'avais pas du tout, en fait, de connaissance de ce qu'était s'entraîner. Moi, à l'époque, je courais presque tous les jours à partir de 15-16 ans. Tu vois, enfin, c'est marrant parce que le week-end dernier, j'ai couru avec mon cousin, bon, qui habite à côté de chez moi, mais avec qui j'ai commencé la course à pied il y a, je pense, plus de 20 ans. Et c'est sympa de se dire que bah, 20 ans après, il a 10 ans de plus que moi, de repartager encore ça. Donc ça a commencé comme ça un été où lui, bah, il avait je pense que j'avais, je sais plus, 15-16 ans, j'ai toujours du mal à me rappeler exactement l'année, mais voilà, lui, il avait 25 ans, il faisait un peu plus, il courait, il avait un de ses copains avec qui il a fait son BTS, qui a été un des premiers un peu pionniers du trail, Thomas Vericel, si tu connais, qui a été dans le premier team Salomon. Et donc voilà, moi, j'ai découvert comme ça. Après, je courais, on va dire, 3-4 fois semaine tant que j'étais au lycée, parce que je pouvais pas trop courir la semaine, on n'avait pas trop le droit de sortir librement. Et à partir du moment où je suis allé à la fac, là, je me suis mis à courir, je pense, quasiment tous les jours, une heure et demie. Moi, j'avais l'impression que c'était de l'entraînement soutenu. Puis c'est plus tard, alors après, j'avais des prédispositions, je pense, donc j'ai fait des petites courses comme
ça. C'était pour aller un peu moins à la fac aussi, peut-être, non?
Non, mais je courais vraiment. Non, pour le coup, j'étais assidu, j'allais à tous les cours. Pour le coup, je faisais pas péter les cours. C'était plus que je travaillais pas beaucoup à côté. mais non, du coup, ouais, je courais souvent le soir en rentrant de la fac, une heure et demie. J'habitais sur Grenoble, et il y a un territoire qui est un peu le lieu de la forêt dans lequel mon club s'entraîne maintenant. Et voilà, donc je courais presque. Pas toujours le même tour, mais assez souvent, plus ou moins le même tour, voilà, une heure et quart, un peu à bloc, tu vois, enfin, ce qu'on appelle du tempo, de l'endurance active. Et donc, après, j'ai vraiment fini mes études, je suis rentré dans le monde professionnel en 2009. Et c'est au cours de l'année 2009, 2010, début 2010, que je me suis dit, bah, tiens, j'ai envie de faire un peu plus sérieux. Donc, j'avais cette volonté-là, mais cette méconnaissance. Et du coup, bah, je m'entraînais pas, je pense, assez pour vraiment faire du haut niveau. Et c'est là que j'ai rencontré mon entraîneur, Patrick Bringer, en mai 2010. Et c'est à partir de là que ça a vraiment décollé. Et après, j'avais des rêves, tu vois, gagner les Templiers, être en équipe de France, mais je pense que j'ai toujours été quelqu'un qui était plus dans le fait de faire les choses plus que de vouloir avoir quelque chose, genre gagner des courses, c'était davantage de vivre quelque chose où tu sens, alors je pense qu'au début c'était ça, une forme de reconnaissance, quelque chose où tu as l'impression que tu réussis, tu sors un peu de la norme. Donc c'était des motivations un peu extrinsèques au début, puis après ça s'est devenu intrinsèque et vraiment un quotidien pour moi, quoi.
Est-ce que ça a été aussi la première fois que tu ressentais, tu as parlé de tes études, que tu ressentais quelque chose de très passionnel, enfin quelque chose qui te faisait vibrer et qui te portait, c'est aussi ça qui t'a poussé et t'a senti naître en toi avec la course à pied ?
Bah complètement, tu vois, tu m'as bien cerné, je pense que j'étais quelqu'un qui était pas, j'aime pas dire intelligent, mais qui aurait pu faire des études, tu vois, j'avais des facilités, j'ai eu des mentions au bac, je travaillais vraiment pas beaucoup, mais j'ai jamais trouvé de quelque chose qui me motivait vraiment, et comme je suis pas quelqu'un qui rentre trop dans les normes, je faisais pas les choses juste pour faire comme on attendait de moi, et donc du coup le fait de pas avoir trouvé cette passion dans les études, ça fait que j'ai jamais trouvé quelque chose où j'avais envie d'investir beaucoup de temps pour ça. C'est pour ça d'ailleurs que j'étais pas allé en prépa, parce que je savais que ça me conviendrait pas du tout de mettre tout entre parenthèses, et que je voyais pas de sens pour faire ça. Et c'est vrai que dans le sport j'ai trouvé cette possibilité là, et voilà, comme c'était vraiment une passion et que ça me demandait pas d'effort et que je trouvais du sens, c'est vrai que je me suis investi beaucoup là-dedans, parce que c'était entre guillemets facile, quoi.
Tu as parlé de Patrick, donc qui est ton entraîneur depuis 2010, Patrick Bringer. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne encore 13 ans après ? C'est quoi la juste place de chacun ? Enfin, c'est quoi la relation que vous avez ? Est-ce que c'est une relation très professionnelle, amicale, paternaliste ? Enfin, c'est quoi les ingrédients qui font que 13 ans après, ça tient toujours et que chacun y trouve son compte, sportivement notamment ?
Bah, ça a été un petit peu tout ce que tu décris, en fait. Donc ça a évolué. Ça a été plutôt paternaliste au début, parce que j'avais pas de légitimité pour discuter ce que me proposait Patrick. Après ça a évolué dans quelque chose de peut-être je lui faisais vraiment beaucoup confiance. Il y a des moments où je pense j'aurais dû peut-être plus m'écouter. Quelquefois on allait peut-être pas droit dans le mur, mais on est peut-être allé un peu dans la surcharge, et on est passé à côté de peut-être quelques résultats certaines années. Et après j'ai eu une période, je pense je le situerai un peu au moment de ma fracture de fatigue, où j'ai commencé à avoir moins cette envie de me faire mal, de toujours s'entraîner plus dur. Et donc là, à ce moment-là, c'est devenu une relation un peu plus, plus collaborative, plus d'échange, et de période où je me gère et où Patrick regarde plus un peu avec un œil extérieur, plus des moments où il est plus vraiment directif et impliqué. Ça dépend vraiment de la période, et c'est lié à ce que moi j'ai envie de faire. Si on parle de l'année 2022, il y a une grande partie où j'ai passé mon temps à m'entraîner tout seul. Et puis pour les championnats du monde, j'ai vraiment dit à Patrick, je veux que tu reprennes la main pour qu'on fasse des choses vraiment dures, que j'accepte de faire des choses peut-être que j'accepte moins de faire aujourd'hui, parce que quand tu as une dizaine d'années de carrière derrière toi, tu sais à quel point c'est dur d'exceller. Enfin, quand je dis d'exceller, c'est son excellence personnelle. Donc, faut accepter de faire des choses que peut-être tout seul, on n'accepte pas d'écrire sur un plan d'entraînement, quoi.
Est-ce qu'il y a un conseil ou un enseignement qui t'a transmis, avec lequel tu vis aujourd'hui, et que tu as toi-même, on en parlera un peu plus tard aussi, de ta casquette d'entraîneur, mais est-ce qu'il y a une phrase un peu fondatrice ou un point de vue très fondateur qui t'habite encore aujourd'hui, qui te guide aussi ?
Ouais, il m'a dit très tôt, tout ce qui n'est pas partagé est perdu, et je pense que c'est très vrai. Et ça allait dans le coaching, ça allait dans mon choix de changement de sponsor l'année dernière pour changer de marque et avoir un rôle d'un peu plus de transmission, enfin, sorte de capitaine de route chez Brooks. Donc ouais, c'est quand même quelque chose qui m'anime, et puis tu vois, j'essaye de faire aussi à travers ces podcasts-là, ou dans la bande à des plus, de voilà, transmettre tout ce que j'ai pu recevoir et tout ce que le sport m'a apporté, parce que c'est je dis souvent que le sport c'est un peu la vie en accéléré, donc ça a beaucoup de vertus, parce qu'on a le droit de se tromper, et ça a souvent moins de conséquences que entre guillemets dans la vraie vie, quoi.
Est-ce que t'as le sentiment, toi, qu'on te transmet encore beaucoup, t'as l'impression de recevoir beaucoup, ou de justement du fait de ta grande expérience et ton recul et d'avoir vu aussi peut-être ton sport évoluer. Est-ce que c'est plus dans cette logique où c'est toi le rôle de transmettre et que toi tu reçois peut-être un petit peu moins?
Ouais, j'essaye de transmettre. Après, je pense que un des mantras les plus forts dans la vie, c'est qu'il faut savoir écouter les autres, parce que quand tu parles, t'apprends jamais rien. Parce qu'en principe, tu dis des choses que tu sais. Donc, c'est vrai que c'est important de savoir écouter les autres et surtout d'avoir cette capacité à pas se mettre au-dessus des autres parce que t'as plus d'expérience. Je pense que tu peux aussi bénéficier des expériences de, on va parler du sport, mais d'athlètes plus jeunes parce qu'ils peuvent avoir un autre background, parce qu'ils ont une autre vision et puis parce que tu peux évoluer. Il y a des choses que des fois tu laisses de côté mais qui fonctionnaient bien, et quand tu les revois chez quelqu'un d'autre, tu te dis ah mais ça finalement c'était pas mal, alors peut-être qu'à cette époque-là tu l'utilisais mal ou t'étais trop, voilà. J'aime beaucoup quand même l'échange, et puis en fait j'ai aussi conscience que dans le domaine, on va dire, de l'entraînement ou du trail, comme je connais pas mal de choses, j'ai aussi conscience que j'ignore beaucoup de choses aussi, et ça c'est un petit peu ce qui fait, selon moi, le fait qu'on peut se considérer comme, j'aime pas utiliser le mot expert, mais comme connaisseur dans un domaine, c'est quand t'as vraiment conscience qu'il y a plein de choses que tu sais pas. Parce que souvent, tu vois, t'as cet effet, c'est Dunning-Kruger, si je dis pas de bêtises, quand tu découvres un milieu, t'as l'impression que t'as quelques connaissances, donc tu connais tout parce que t'as pas conscience de tout ce qui existe. Et quand tu avances dans un domaine, tu te rends compte, ah ouais, il y a plein de choses que je ne sais pas, et que finalement, dans l'entraînement ou dans l'entraînement en temps, quand tu entraînes les autres, quand tu t'entraînes toi-même, c'est un peu une remise en question quotidienne aussi pour explorer son corps, parce que c'est ça qui est intéressant davantage que la performance pure, quoi.
On avait eu l'occasion d'en parler, Nicolas, quand on s'était croisé cet été à Chamonix, la veille de ton OCC. On parlait de la construction de carrière et de la progression. Donc, on l'a compris au détour de ce que tu as raconté de ton parcours. Elle a été lente, mais régulière. Et puis, elle a atteint des très hauts niveaux. Est-ce que tu penses que c'est aussi une meilleure façon de durer? Ce temps qu'on a mis à construire, c'est aussi ce temps qui permet de durer longtemps et d'entretenir aussi la flamme, parce qui je pense aussi est en lien très direct avec la performance qu'on peut délivrer aussi, même avec le temps, sans s'user.
Je pense que, en fait, ce qu'il faut apprendre à développer, si tu veux durer, c'est l'amour de s'entraîner, en fait, davantage que l'amour de performer. Et que si tu développes l'amour de l'entraînement, tu vas performer. C'est quand même très corrélé. Alors après, il peut y avoir un moment où tu as plus envie de faire de compétition tout en ayant toujours envie de t'entraîner, mais tu peux pas avoir envie d'être performant sans avoir envie de t'entraîner. Donc il y a des gens qui vont avoir une motivation qui est liée qu'à la compétition et qui du coup vont s'entraîner uniquement pour la compétition. La problématique de ça, c'est que je pense que ça fonctionne tant que tu réussis en compétition, mais dès lors que tes résultats sont pas à la hauteur de tes attentes, et ben tu trouves pas du sens dans tout ce que tu as fait. Et souvent, ces gens-là, ils vont, je pense, parler de sacrifice. Moi, je parle plus du tout de sacrifice dans ma pratique sportive. Alors, il y a des jours, c'est inconfortable, c'est sûr, quand tu fais des séances difficiles. Si quelqu'un te disait, tu peux être aussi performant sans le faire, il y a des jours où tu dirais, ouais, d'accord, je reste dans mon canapé, c'est OK. Mais globalement, c'est quand même avant tout, vraiment cette envie de faire du sport, de trouver, de dépasser ses limites. Et puis aussi d'accepter qu'il y a des moments où on n'a pas envie d'aller chercher ses limites. Et ça, c'était quelque chose que j'avais du mal à accepter quand j'étais un athlète plus jeune. Aujourd'hui, c'est comme ça. Je sais que, entre guillemets, je suis pas un feignant. Donc, si j'ai pas envie de faire des choses, c'est qu'il y a des raisons physiques, mentales. Que peut-être le jour où, à toutes les séances, je me dirais ça, ben, ce sera sûrement le temps d'arrêter de faire de la compétition. Mais tant que c'est très marginal dans ma pratique, c'est pas pour moi compliqué de continuer à essayer d'être performant, quoi.
Ça a été quoi le plus gros challenge pour toi quand il a fallu revêtir cette casquette d'entraîneur? Donc tu entraînes des athlètes élites comme Mathieu Delpeuch ou Sylvain Cachard, mais tu entraînes aussi et tu encadres des coureurs de milieu de peloton. Ça a été quoi la chose la plus difficile et la plus nouvelle finalement pour toi à appréhender dans ce rôle-là? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de marquant, ou est-ce que finalement c'était très naturel et tu avais déjà cet instinct très pédagogue?
J'avais un peu le syndrome de l'imposteur qu'on appelle, parce que j'ai un peu appris de manière seul, j'ai pas eu une formation là-dedans, donc après je fais des formations un petit peu pour acquérir des connaissances, mais c'est vrai qu'au tout début j'ai commencé un petit peu avant tout pour comprendre ce que je faisais, parce que moi c'est assez important, tu vois, quand je te parlais que j'avais jamais trop trouvé quelque chose qui motivait, en fait moi j'ai toujours l'impression que ce qui m'aurait convenu c'était de faire que des études, tu vois, de jamais avoir à mettre concrètement, tu vois, apprendre des choses mais pas forcément avoir à les mettre en application. J'ai vraiment toujours été curieux de plein de domaines, et je pense que c'était dans ma pratique, c'était important de comprendre ce que je faisais, et puis après c'est devenu un petit peu naturellement. Après c'est aussi des questions d'opportunité, parce qu'on est un petit sport, Et quand tu veux vivre de ton sport, c'est difficile de faire que du sport. Donc, des fois, il faut trouver des activités qui te permettent de compléter un petit peu tes revenus. Hein. C'est très basique, ce que je dis, et un peu terre à terre. Mais bon, à un moment donné, faut payer les factures, comme on dit. Et donc, du coup, c'était cette possibilité, voilà, d'avoir un petit peu plus de confort financier sans que ça impacte trop ma pratique sportive. Donc voilà, et puis maintenant, c'est, je pense, voilà, quelque chose que j'aime beaucoup dans la transmission, dans l'échange avec les gens. Voilà, je pense que je serai jamais, tu vois, forcément ultra intéressé par la très très haute performance, ce qui n'empêche pas d'avoir des athlètes qui font de la haute performance, mais qui n'ont pas forcément d'être omnubilé par tout optimiser. Il y a des gens qui font du haut niveau en étant plus intuitif. Voilà, même si j'aime bien.
Le vice-champion du monde, c'est pas de la très très haute performance, tu trouves ?
Bah, ça l'est peut-être. Après, moi, j'ai pas l'impression d'être, tu vois, quelqu'un de qui compte tout, qui optimise tout. Mais en fait, ça, c'est, je pense que c'est nécessaire dans le très très haut niveau quand tout est optimisé. Mais dans des sports comme les nôtres où il y a pas, finalement, on en revient un peu à des choses terre à terre. Mais il y a pas non plus, tu vois, des récompenses telles qui peuvent faire que tu vas accepter de mettre ta vie entre parenthèses pendant 2 ans parce que t'as l'impression que, par exemple, ça va vraiment changer le reste de ta vie. Ce qui peut être le cas, je sais pas si c'est le cas, mais quand t'entends des cyclistes professionnels, par exemple, qui ont gagné le Tour de France, te dire à quel point, finalement, s'il fallait le refaire, ils le referaient pas, tellement c'est des sacrifices. Moi, je conçois pas la pratique sportive de cette manière-là, parce que, en fait, j'aurais couru 14 minutes plus vite au championnat du monde, dans la course qu'on va évoquer. Ça aurait pas changé ma vie, quoi. Et du coup, si pour le faire, ça change toute ta vie, ça a pas de sens pour moi, personnellement, quoi.
Pour parler plus particulièrement des courses, comment est-ce que toi tu détermines tes calendriers sur une année ? Est-ce que tu vas d'abord placer un ou deux très gros objectifs A et puis ensuite tu vas essaimer et construire jusqu'à ces rendez-vous ? Et c'est quoi un peu les points de passage obligés pour toi dans une année ? Est-ce que tu détermines ça vraiment de façon très conjointe avec Patrick, éventuellement avec Brooks ? Voilà, comment est-ce que tout ça, ou tes autres partenaires d'ailleurs, comment est-ce que tout ça se danse ? Est-ce que c'est ton cœur qui parle en premier ?
C'est plutôt une planification avec des rendez-vous assez incontournables. Alors, moi, j'ai jamais été trop dans la vie de découvrir tout le temps des nouvelles courses. J'ai fait beaucoup, j'ai fait 10 fois le Ventoux, j'ai fait 9 fois les Templiers, je crois. Donc, tu vois, beaucoup les courses qui me plaisent, ça me gêne pas du tout de les refaire. Après, il faut jongler, je pense, quand tu as une carrière professionnelle, entre ce que tu as vraiment envie de faire et quand même tes qualités. C'est-à-dire que moi, j'adore les courses courtes, mais c'est pas vraiment mes qualités. Voilà, par exemple, les Golden Trail Series, bah, c'est un circuit que j'apprécie parce qu'il y a beaucoup de concurrence, mais j'ai pas aujourd'hui le talent pour me permettre de faire que ce circuit-là, parce que bah, si tu fais tout le temps entre 10 et 15, c'est pas non plus ce qu'attend ton partenaire, parce que il t'a pas forcément engagé sur ces qualités-là. Donc, il faut trouver un équilibre. Donc, j'essaye de trouver un équilibre avec des courses un peu phares sur lesquelles j'espère pouvoir être performant, et d'autres courses plus plaisir. Voilà, l'année dernière, j'ai découvert Zegama. Bon, je sais très bien que je vais pas jouer les premiers rôles à Zegama, mais par contre, ça convient complètement à ma vision du sport. C'est l'une des courses les plus relevées sur le format Mara Trail, et moi, rentrer par exemple dans les 20 sur une course comme ça, je sais que ça a de la valeur. Ça a pas forcément de valeur médiatique et tout, mais je sais que sportivement, ça a une vraie valeur, et donc ça m'intéresse de faire ces courses-là. Donc, faut trouver l'équilibre. Et ça, c'est plutôt un fonctionnement d'athlète, je trouve, élite. Après, chez les individus qui ont plus une vie à côté, moi, je pense qu'il faut davantage voir ce qu'on peut faire comme type d'entraînement et se fixer des objectifs plutôt par rapport à ça, que ce qui est trop fait souvent comme les élites, de se fixer des objectifs et de se dire « Ah ouais, mais maintenant, en fait, je me suis fixé cet objectif et puis faut s'entraîner tant d'heures dans la semaine et puis je suis peut-être pas capable de le faire ». À cause de ma vie, et ça, j'essaye moi de le transmettre aux gens que j'accompagne, d'être dans une pratique qui est équilibrée, qui s'équilibre avec leur vie. Alors oui, on peut avoir des rêves et puis essayer de faire une grosse course qui peut-être demande de bouleverser sa vie, mais faire des choses qui sont complètement en non adéquation avec sa vie de tous les jours, sa vie professionnelle, sa vie familiale, c'est pas quelque chose que j'ai envie d'accompagner personnellement en tant que coach, quoi.
Donc beaucoup de progressivité.
Ouais, de la progressivité, et puis je pense que c'est ce dont je comprends, hein, le rêve de boucler des ultras, mais il faut avoir conscience que c'est extrême comme pratique, et qu'une pratique extrême, ça demande un entraînement peut-être pas extrême, mais en tout cas un vrai entraînement, et qui est pas toujours ce que personnellement j'ai l'impression d'observer dans le milieu du trail, quoi.
Et des jalons intermédiaires qui valident aussi cette progression.
Oui, c'est ça. Alors après, enfin, c'est
de pas passer du marathrail à un ultra.
C'est ça. Après, c'est très généraliste et c'est dur de le dire parce qu'il y a des exemples, il y a des contre-exemples, il y a des gens qui ont des capacités qui font qu'ils vont pouvoir un peu plus sauter les étapes. Mais la plupart du temps, si on saute trop les étapes, on passe plus de temps à se soigner et à soigner des blessures qu'à courir. Et c'est pas l'objectif, je pense, quand on se met sur la course à pied. Mais là, ça, c'est mon avis personnel, mais je pense aussi qu'il y a des gens qui vont. Enfin, moi, j'ai déjà entendu des gens dire, qui vous préparent des ultras, dire j'aime pas courir, quoi. Enfin, pour moi, c'est inconcevable, en fait. Comment tu peux te dire je vais aller faire 160 km dans la montagne si t'aimes pas courir, tu vois. C'est vraiment, tu vois, la motivation, je sais pas, de dire j'ai fait ce défi-là, mais en fait, c'est de la course à pied, mais ça aurait pu être presque n'importe quel défi, tu vois. C'est pas. Alors que moi, ma vision, c'est moi, j'aime la course à pied. Et du coup, je vais faire des courses en adéquation avec ce que j'aime dans la course à pied, quoi.
C'est quoi, Nicolas, aujourd'hui, les ingrédients qui sont indispensables pour qu'une course, elle soit réussie pour toi, au sens très large? Qu'est-ce qu'il faut qu'elle ait à tout prix?
Je dirais que la prépa soit bien passée pour que j'ai l'impression de pouvoir être une bonne version de moi-même sur la course. Je dis souvent, en rigolant à mes amis ou à des gens que j'entraîne, quand tu t'es bien préparé, tu sais que t'es fort, par exemple. Il y a que les autres qui le savent pas. Et finalement, la course, c'est tu montres aux autres que t'es fort. Mais c'est quand même rare, tu vois, d'aller sur une course en se disant, ouais, franchement, je sais pas du tout comment je suis. Et puis d'avoir des sensations de folie. Enfin, moi, personnellement, ça m'est jamais arrivé. À chaque fois que j'ai réussi quand même des bonnes courses, dans les entraînements avant, dans les semaines avant, je savais que j'avais le potentiel pour faire une bonne course. Après, il y a des aléas. Il y a des fois qui arrivent pas pour diverses raisons. Mais en tout cas, tu t'es pas surpris de te dire, ah, waouh, je suis super bien aujourd'hui, quoi. En principe, quand même, tu le sens dans les jours avant. Et donc, ouais, c'est vraiment ça aussi que je trouve un peu grisant. Moi, j'aime bien les fins de préparation, quand tu commences à avoir vraiment des super sensations, qu'on commence un peu à alléger l'entraînement, donc il y a moins de fatigue. T'as vraiment ces jours qui sont assez précieux parce que finalement, ils sont, pour quelqu'un comme moi qui arrive entre guillemets en fin de carrière, tu te rends compte qu'ils sont pas si nombreux que ça dans une carrière et qu'il faut savoir en profiter de ces sensations un peu... Ou en vélo, on dirait, tu sens pas les pédales. Ben c'est dans le trail, c'est moi je dis en rigolant, des fois t'as l'impression que tu peux modifier la gravité, tu vois, c'est t'es dans une montée, t'as l'impression que tu sens pas la gravité ce jour-là, et ça c'est vraiment des sensations qui sont assez géniales, quoi.
Ça t'arrive encore d'être surpris sur une course par son déroulement, le parcours, ton ressenti, ou est-ce que t'as le sentiment d'avoir, de par ton expérience, une palette assez large des scénarios auxquels t'as pu être confronté? Est-ce qu'aujourd'hui tu sais faire face et identifier chaque situation, ou est-ce que tu peux t'arriver encore de vivre des moments un peu incertains ou sur lesquels tu comprends pas trop ce qui se passe?
Ouais, il y a toujours des surprises. J'ai toujours du mal à gérer les très fortes densités des débuts de course. Et il y en a de plus en plus, sûrement, surtout. Bah, par exemple, Zegama, tu vois, c'était, je savais que fallait être derrière au début de la course, qu'il fallait accepter de partir prudemment, mais c'était dur de dire, alors, c'était dur de fixer un objectif, mais je me disais, voilà, avec une bonne course, tu peux faire entre 10 et 15, rentrer dans le top 10 avec une top course. Et donc, du coup, j'étais, je sais plus exactement, mais genre vers la 30e place, c'était dur d'accepter d'aller encore plus doucement, de reculer. Et bon, tu vois, enfin, pour donner un exemple, mais au premier ravitaillement, j'étais que 45 secondes devant Nienke Brinkman, la première féminine, donc je pouvais pas non plus, je pense, aller beaucoup moins vite. Et donc ça, c'était assez dur mentalement à accepter. Et donc, du coup, quand t'as cette difficulté à accepter, bah, tu cours un peu trop vite et souvent, tu le payes en fin de course. Après, sinon, sur les scénarios, vu que je suis quand même assez passionné de la discipline, peut-être un peu plus que d'autres athlètes qui sont très performants, je connais quand même bien les coureurs. Et donc, du coup, il n'y a pas trop de surprises parce que je sais plus ou moins me situer quand même par rapport aux coureurs en fonction du format et que du coup, j'ai une bonne connaissance. Alors, ça a des qualités. Après, des fois, je pense que ça t'inhibe aussi si tu as vraiment l'impression d'être moins fort que quelqu'un. Mais j'arrive quand même à me rendre compte de, voilà, s'il est plus fort, c'est pas juste dans ma tête, je me dis qu'il est plus fort, c'est que j'ai aussi des ressentis qui me laissent dire que, bah non, ça va trop vite et que tu peux pas suivre. Si c'est un coureur, des fois, qui est un peu plus, que tu considères un peu comme quelqu'un de ton niveau ou légèrement en dessous, bah, tu vas peut-être un peu plus t'accrocher. Mais c'est vrai que s'il y a à la fois des sensations qui te disent ça va trop vite, plus vraiment le sentiment que le coureur, normalement, il est pas exactement dans la même classe que toi, bah, ça te permet aussi de dire, ouais, attention, là, faut accepter qu'il y a des individus meilleurs que soi. Et moi, me suis construit là-dedans parce que j'ai jamais été un surdoué non plus, dès qu'il s'est mis à courir, remporter les courses, était à l'avant. Donc, je me suis aussi construit dans une première partie de carrière par des courses plutôt par l'arrière. Et donc, j'ai dû accepter ce fait de de courir pas en étant acteur des courses et d'être plus dans ma course personnelle et puis avec un résultat qui pouvait être honnête à la fin, mais qui était des courses qu'on appelle un peu où tu ramasses les morts, comme on dit, quoi.
Si on se projette un peu là sur les mois qui arrivent et sur les chantiers que toi tu as identifiés sportivement, est-ce que l'idée c'est que tu es plutôt dans une logique de maintien de tes qualités existantes, de les conforter en tout cas et de pas décrocher sur ça, ou est-ce que tu es aussi dans cette optique d'aller développer d'autres compétences complémentaires et tu es dans une constante logique d'optimisation de toutes les sphères de ta pratique sur lesquelles tu pourrais peut-être te sentir un petit peu moins au niveau, sur lequel tu as encore un potentiel de développement? Est-ce que tu vas t'attacher à aller chercher ça, ou est-ce que tu vas surtout essayer de capitaliser sur tes forces, pour le résumer un peu plus, de façon un peu plus succincte?
Alors à mon âge, on est quand même plutôt sur déjà essayer de maintenir son niveau. Après, j'essaye quand même, tu vois, on le voit avec Kylian qui a juste un an de moins que moi, donc on est plus ou moins de la même génération. On a vu que la saison dernière, il avait peut-être fait ce qu'il avait jamais fait dans sa vie. Donc, je pense qu'il y a toujours moyen d'améliorer des choses. Après, j'ai toujours eu le sentiment, moi personnellement, que pour aller plus loin, j'avais des limites mentales. C'est-à-dire que je pense qu'on a tous une capacité mentale. Alors moi, je pense que j'ai un mental qui est globalement fort, mais qui est pas trop capable d'accepter des grosses surcharges qui peuvent être nécessaires pour aller chercher plus ses limites. Et comme je le disais déjà, je vois pas du sens non plus de tout sacrifier pour courir un peu plus vite. Après, j'essaye par contre dans mon entraînement d'implémenter des nouvelles choses, mais plus pour ne pas se lasser, parce que c'est aussi une facilité de dire bah voilà, je sais, je me prépare comme ça, ça fonctionne, mais bon bah du coup t'as beaucoup aussi de souvenirs et donc de se dire ah oui, mais je sais à quel point ça va être dur si tu fais toujours les mêmes choses. Donc j'essaye d'avoir un niveau plus ou moins similaire, mais en faisant pas tout le temps la même préparation. Par exemple, pour citer un exemple, cet hiver, je me suis mis un peu à la musculation. J'étais jamais allé dans une salle, j'étais jamais passé sous des barres. Je suis pas intimement convaincu que ça améliore complètement la performance, par exemple, tu vois. Si tu me disais vraiment est-ce que faut aller faire du ski de rando tous les jours plutôt que de faire de la muscu, je te dirais faut aller faire du ski de rando tous les jours. Mais je sais qu'aller faire 4-5 heures de ski de rando, je suis pas forcément prêt à le faire, j'ai pas forcément le temps non plus pour le faire. Donc je me suis dit bah tiens, je vais essayer de faire de la muscu, c'est nouveau, ça varie un petit peu. Je m'embourgeoise un peu si mon coach m'entend, Patrick, il va me dire là c'est le temps d'arrêter, mais bon, quand il fait moins 5, t'es pas plus mal dans une salle que dehors. Mais il dit toujours que si tu commences à regarder la météo, c'est que c'est temps de s'arrêter. Mais non, voilà, c'est avant tout, je le dis, dans une première partie de carrière, j'en discutais ce matin qu'un jeune athlète, dans une première partie de carrière, faut être un peu dans l'après, un peu dans le moyen et le long terme. Quand t'arrives, je dirais au-delà de 35 ans, faut être quand même davantage dans le court terme et déjà d'essayer sur les courses d'être une bonne version de soi-même. Parce que bah, si tu es une bonne version de soi-même, tu dois vraiment pouvoir faire ce que tu as déjà fait avant, modulo le niveau de tes adversaires que tu ne maîtrises pas.
J'ai une dernière question pour cette phase préliminaire de nos échanges qui est en lien avec ta sensibilité sur la thématique environnementale, qui est un sujet sur lequel on a pour beaucoup un rapport qui est assez schizophrène et puis qui dans ton cas et dans le cas d'athlètes de ton calibre, ça peut entrer en friction avec le statut de coureur et puis des déplacements qu'impose occasionnellement cette pratique de haut niveau. Est-ce que tu as prévu d'adapter ton calendrier en 2023 en conséquence? C'est quoi ce que toi tu penses être les leviers qui sont actionnables pour toi, mais aussi pour chacun, pour pouvoir faire déjà des premiers mouvements et insuffler un nouvel élan?
Alors bon, en fait, tu vois, plus ça évolue et plus je trouve que, tu vois, on parle beaucoup des bilans personnels. Ça, c'est bien, ça permet de faire des efforts et tout. Après, c'est quand même très, je trouve, limité parce que tu vois, je vais te dire, cette année, je vais essayer de m'y tenir, parce qu'il y a des tentations, des fois, c'est pas toujours facile, mais de pas prendre l'avion. Mais en fait, je peux ne pas prendre l'avion parce que j'habite dans les Alpes françaises. Et que du coup, si on poussait le raisonnement, je pourrais aller faire l'UTMB en prenant mon vélo, je pourrais aller faire des belles courses avec des moyens de transport qui sont propres. Mais en fait, je me dis aussi que si j'étais un athlète asiatique, ben pourquoi j'aurais pas le droit de faire l'UTMB, tu vois. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est complexe. Je pense que si on accepte qu'il y ait du sport de haut niveau, on accepte qu'il y ait des déplacements. Et ce qui me paraît important, les athlètes, entre guillemets, élites, ou les athlètes qui ont un peu de notoriété parlent, je pense que c'est davantage pour dire que c'est pas parce que tu voyages que t'es heureux, par exemple. Moi, j'ai eu la chance de voyager. Je me suis rendu compte que c'est pas quelque chose qui est important pour moi de voyager. C'est-à-dire que j'ai voyagé parce que c'était nécessaire à ma pratique. Mais comme, je sais pas, quelqu'un est ingénieur et doit aller une fois ou deux par an en Chine pour aller voir les usines. Les usines, c'est un peu, tu vois, d'une certaine manière. Alors, je vais pas dire que c'est la même chose, mais c'est un peu la même chose. Moi, je suis allé en Thaïlande l'an dernier parce que le champion du monde, il était en Thaïlande. Sinon, je serais pas allé en Thaïlande me faire bronzer à Phuket, par exemple. Tu vois, c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse. Et après, j'ai même pas envie de dire que je suis plus légitime d'aller faire un championnat du monde, hein, que d'aller se faire bronzer à Phuket. Mais c'est juste que, voilà, si on veut qu'il y ait des championnats du monde, il y a des déplacements d'athlètes. On n'a pas le choix. Donc, c'est un peu quelque chose contraint et c'est une limite technologique. Après, passer du bon temps en vacances, je pense qu'on peut le faire quand on habite en France de manière quand même relativement propre. Et est-ce qu'une vie suffit pour faire le tour de la France et tout ce qu'il y a à voir en France? Je ne suis pas complètement sûr, tu vois. Et il y en a beaucoup qui parlent de culture et j'ai écouté un podcast d'Aurélien Barreau récemment, parlait d'altérité, je crois, et qui disait... En parlant de ses étudiants, il disait « Mais la plupart des étudiants, ils vivent dans des immeubles et en fait, il y a énormément de culture juste dans ton immeuble si tu te donnes les moyens de rencontrer les gens qui habitent à côté de chez toi. » Alors, c'est moins le cas, moi, où j'habite parce qu'il y a moins de monde et c'est un peu plus, on va dire, tous la même culture. Mais tu vois, il y a vraiment, si c'est important, et c'est pas le cas, par exemple, pour moi, mais si c'est important pour les gens, je pense qu'il y a aussi des moyens, ce qui veut pas dire ne jamais prendre l'avion, mais ce qui veut dire juste avoir conscience de l'impact que ça a. Alors après, je pense aussi qu'il faut avoir du recul. Le trail, c'est quand même globalement, je pense, plutôt un sport exemplaire là-dessus par rapport à d'autres activités sportives. Tu vois, enfin, quand t'es athlète de haut niveau, sans faire trop attention comme moi, j'ai pas fait un bilan exact, mais je pense que j'étais à 12 tonnes de CO2 l'an dernier. Je pense que c'est plutôt des bons bilans dans les athlètes de haut niveau, dans des sports. Si on parle de médaillés mondiaux, par exemple, je pense que c'est quand même plutôt... des bilans qui n'ont rien à voir avec des activités comme le cyclisme professionnel, comme le football, comme les sports de NBA, des ligues fermées des États-Unis où ils font, je sais pas, 80 matchs dans la saison et vu les distances, ils prennent l'avion, je pense, quasiment à chaque match, quoi.
On a un beau sport aussi pour ça, effectivement. Nicolas, merci beaucoup pour cette belle introduction. C'est l'heure maintenant de la petite rubrique, le questionnaire de Proust. J'ai trois questions pour toi. Est-ce que tu es prêt?
Je suis prêt.
Roulement de tambour. Quel moment a changé ta vie pour toujours?
Alors, on en a déjà parlé, mais je pense que c'est la rencontre avec Patrick quand même, parce que ça a conditionné beaucoup la suite de ma vie. Alors, c'était pas sur le moment conscience de ça, mais avec le recul, je dirais que c'est un peu ça, quoi.
Quel talent aimerais-tu le plus avoir? Celui d'être Patrick Bringer ou un autre?
Non, celui de savoir chanter ou d'être capable de vraiment faire quelque chose de concret de mes mains, tu vois.
Tu sais pas bricoler une étagère, c'est ça?
Non, mais je suis un peu bricolé, mais tu vois, de me dire, j'aimerais pouvoir presque construire une maison de A à Z, tu vois.
Tu pourrais pas construire la douche dans laquelle tu aimerais chanter juste, par exemple?
Ouais, ça, peut-être, je saurais un petit peu faire, mais en fait, j'ai jamais trop la nécessité de le faire, mais ouais, j'aimerais bien, tu vois, vraiment avoir plus un métier où t'as l'impression que c'est concret, tu vois. Tu dis, tiens, ah bah aujourd'hui, j'ai construit une charpente, tu vois, c'est concret, on va mettre un toit et... Tu vois, c'est un peu ça. J'en avais parlé avec, j'avais fait des travaux récemment avec quelqu'un qui avait une voix un peu intellectuelle, entre guillemets, on va dire, et qui a vraiment quitté ça parce qu'il avait envie de faire quelque chose de ses mains. Et c'est vrai que ça m'avait un peu touché à ce moment-là de me dire, et donc pourquoi pas pour la reconversion, peut-être soit ça, soit être au contact de la terre. Voilà.
C'est une vraie tendance, ça, cela dit. Il y a beaucoup de gens qui ressentent ça aujourd'hui, et le sens et ouais, l'utilité de leur vie. Et puis quand tu fais, c'est autre chose. Tu sais que si j'avais été Nagui, je t'aurais demandé de chanter, vu que tu parlais de tes talents de chanson, je t'aurais demandé de nous faire...
Non, je pense que pour nos éditeurs, il faut que je m'abstienne de chanter.
Tu pourrais faire neiger, tu vois, on parle de pleuvoir, mais là, ouais, tu pourrais faire peut-être neiger en chantant. Dernière question pour toi, Nicolas. L'émotion que tu gères le moins bien?
J'ai tendance à penser que je suis un peu, j'ai utilisé un terme pompeux, dans l'ataraxie quand même. Je sais pas si
okay, Joker, je n'ai aucune idée ce que c'est. Non.
C'est un peu la tranquillité de l'âme, c'est-à-dire le fait d'avoir des émotions assez stables. Je suis quelqu'un qui est pas très émotif. Je sais pas si c'est une qualité ou un défaut, mais en tout cas, en fait, j'essaye dans une forme. Alors, j'aime pas. Ça fait un peu pompeux de dire ça, mais dans une forme de sagesse, de pas trop rester dans les émotions. Alors, c'est paradoxal parce que Si je dis aux gens que j'ai pas vécu un truc de ouf, par exemple, tu vois, dans une dernière ligne droite d'un championnat du monde, je pense que pour plein de gens, ça paraît fou. Mais d'un autre côté, en fait, j'ai le sentiment d'être presque tous les jours très, très heureux, quoi. Tu vois, de pas avoir ces moments de, parce que j'ai l'impression que les émotions, c'est aussi beaucoup le yo-yo et que du coup, ouais, cette sorte de peut-être, il y a jamais de truc, tu fais, waouh, c'est génial, mais par contre, c'est toujours, vachement bien. Il y a des gens qui te diront que la vie a pas de sens en étant comme ça, mais moi, j'ai plutôt eu l'impression d'être toujours, plutôt comme ça, mais de manière générale, hein. Je pense pas que c'est quelque chose que j'ai développé, j'étais plutôt comme ça, dès le plus jeune âge.
Je vais faire la psychologie de comptoir, mais est-ce que c'était une façon pour toi de te préserver plutôt dans les moments de moins bien, justement? Est-ce que c'était une forme de protection?
Je sais pas trop, parce que j'ai pas jamais eu ce sentiment, tu vois, d'émotion très forte, comme te décrivent certaines personnes. Donc, je pense que, est-ce que c'est lié à mon enfance, ou je sais pas, c'est dur à identifier. Des fois, j'essaye, en plus, de dire que c'est important, tu vois, d'être capable d'être très émotionnel, parce que, pour entraîner certains athlètes, je sais que c'est, voilà, quand ils ont cette émotion positive, c'est des warriors, tu vois. Mais je vois aussi que quand ils ont ces émotions dans l'autre sens, plus de manière négative, ils sont assez inhibés. Donc en fait, moi, ce que j'essaye de faire aujourd'hui, on va dire, si je caricature, c'est d'essayer d'avoir ces émotions positives, parce que c'est cool de vivre des émotions positives, mais du coup, quand c'est plus négatif, de ça veut pas dire rien ressentir, mais c'est d'essayer de dire, ok, j'ai ressenti, j'accepte le truc, et puis j'essaye de mettre en place des choses pour changer ça. Mais tu vois, par exemple, quand t'as un problème, moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup un auteur que j'ai pas mal lu qui s'appelle Eckhart Tolle. Je sais pas si tu connais Le pouvoir du moment présent, c'est un de ses
livres. Je connais Jean Tolle, mais pas
Edgar
Tolle.
Les plus connus, ou Nouvelle Terre, qui est très quelque chose centré sur l'ego. Et cette notion j'aime bien dans le livre, il disait, en parlant des problèmes, est-ce que vous avez un problème maintenant? Et en fait, à cette question, quand même, c'est très souvent, la réponse est non. Potentiellement, il y a des problèmes qui vont arriver. Donc, ça ne veut pas dire faut mettre des œillères et ne pas regarder les problèmes. Mais c'est dire, va y avoir un problème. Une fois que j'ai mis en place des choses pour le traiter, c'est pas la peine de rester dans le négatif jusqu'à ce que tu saches si le problème va être résolu, parce que ça va rien changer sur le fait de résoudre ou non ce problème. Et c'est essayer d'être un petit peu là-dedans dans la vie de tous les jours, quoi.
J'avais entendu aussi une version un peu alternative à ça, qui est de se dire, est-ce que c'est un problème auquel tu repenseras dans un an? Tu vois, est-ce que le truc là qui te paraît inextricable, auquel tu es confronté aujourd'hui, est-ce que vraiment dans un an, tu te souviendras même l'avoir rencontré?
C'est ça.
Merci beaucoup, Nicolas. C'était passionnant, ce questionnaire de Proust avec toi. On va parler maintenant de ta course épique et ces championnats du monde de trail qui se sont tenus en Thaïlande au mois de novembre dernier. Je vais en planter le décor très rapidement. Donc le World Mountain and Trail Running Championship est l'événement qui réunit pour la première fois cette année, en tout cas qui réunissait pour la première fois les championnats du monde de montagne et de trail, donc après deux reports en 2021 à l'automne, puis début 2022 en février en raison de la crise sanitaire. Ils ont été finalement reportés et se sont finalement tenus du 3 au 6 novembre dernier, donc à Chiang Mai en Thaïlande. C'est également la première fois que ces mondes de trail sont organisés sur deux distances, à savoir le 80 km qui offrait 4 910 mètres de D+ pour le format long et 40 km pour 2 777 mètres de dénivelé pour le format court. Il y avait vraiment du très très haut calibre, puisque chez les hommes, malgré la défection de Tom Evans et de Namberger, il y avait 5 coureurs qui présentaient une cotitra qui était supérieure à 900, dont toi, mais il y avait aussi Adam Peterman qui s'est illustré sur la course, Thibaut Garivier, Andreas Reiterer et un cinquième qui est le Martin Antamaten. Voilà, côté tricolore, il y avait une belle équipe qui était sélectionnée et encadrée par Adrien Séguret. Je vais quand même citer tout le monde, ça permettra de mesurer quand même les talents qu'on a en équipe de France, que ce soit sur format court ou long. Donc chez les femmes, sur le court, on a Mathilde Sagne, Esther Eustache, Louise Servan-Penoat, Anaïs Sabrier, Candice Fertin. Sur le long, Blandine Lirondelle, qui est devenue championne du monde, comme vous le savez peut-être probablement, cette année aussi. Audrey Tanguy, Marion Delespierre, Jocelyne Poli, Manon Board, Laure Paradan. Et chez toi, à tes côtés, avec Thibaut, dont j'ai parlé tout à l'heure, Ludovic Pommeret, Paul Matou, Martin Kern, Arthur Joyeux-Bouillon sur le format long. Et sur le court, Thomas Cardin, Fred Tranchant, Julien Rancon, Timothée Baumier, Kevin Vermeulen et Arnaud Bonin. Voilà, ça a de la gueule quand même. Hein.
Ouais, on a de la chance et on avait quelques absents. Ce qui veut dire quand même le réservoir en France, qui est, je pense, quoi, est quand même l'une des nations les plus denses au monde. En particulier, je pense, sur le format court homme ou... Ouais, tu peux rajouter à ces noms-là Thibaut Baronian, Tony Felber et d'autres. Donc, ouais, grosse densité en France. Et c'est sympa. C'est aussi, je pense, qui tire tout le monde vers le haut.
Au total, vous étiez donc 900 athlètes élites issus de 46 fédérations sur les différentes courses de ces championnats du monde thaïlandais. Je ne sais pas si tu connaissais
ouais, j'ai exactement ce chiffre. Non, mais il y avait pas mal de nations. Et rien que la France, on était une délégation avec les athlètes et le staff de 49 personnes, je crois. Donc, une belle délégation.
Nicolas, c'est le moment qui fâche un peu, c'est la question qui pique. Voilà, c'est une question très gentiment piège que je pose à mes invités. C'est toujours un peu tiré par les cheveux, je préfère te prévenir. La course dont on va parler aujourd'hui, elle se tient à Chiang Mai. Alors, j'aurais pu parler du mot Chang et pas faire une question sur Michael Chang, par exemple, ça aurait été une possibilité. Mais j'ai préféré
le service à la cuillère.
L'opposé. Exactement, le fameux. Mais ça va être une question sur Mai, et qui dit Mai dit moutarde. Donc, voilà ma question pour toi. C'est n'importe quoi, hein, je t'avais prévenu, Nicolas. Est-ce que tu pourrais me donner la date de création officielle de la moutarde Maille? Alors, je vais donner quand même trois choix.
1885.
Je te propose les choix. 1747, 1819 et 1927.
1819, non?
Eh ben, c'est 1747, figure-toi. C'est Antoine-Claude Maille, tu vois, il portait déjà le...
En fait, le pire, c'est que je visualise écrit sur le pot, tu vois. C'est pour ça que j'avais déjà remarqué que c'était vieux, tu vois. C'est pour ça que je te disais 1800. Tu vois, c'est écrit en bas, là, il me semble, sur l'étiquette, mais...
Ouais, t'as raison. Ouais, effectivement, maintenant que tu le dis. Ouais. Et il avait déjà ouvert sa boutique, tu vois, rue Saint-André-des-Arts à Paris. Et donc voilà, c'est vraiment l'acte de naissance officiel de la moutarde Maille. Et ensuite, il est devenu fournisseur de la cour de Hongrie. Il a ensuite décroché les armes du roi de France en 1769, puis celle de Catherine II de Russie en 1771. Tout ça, je le sais de tête, hein, comme tu peux l'imaginer, évidemment. Donc c'était vraiment considéré comme le premier homme de moutarde de l'Europe. Et donc voilà, les produits de la maison Maille ont ensuite chatouillé nos papilles pendant plus de 250 ans pour nous, tous les Européens, puis aussi les cours royales à l'époque. Donc voilà, je pense que bon nombre d'entrepreneurs, en tout cas, pourraient s'en inspirer et en prendre de la graine au vu d'une telle longévité.
Belle blague.
Ouais, attends, j'en ai une deuxième, bouge pas. Nicolas, à moins que la moutarde te soit montée au nez, est-ce que tu serais OK pour qu'on continue cet épisode et puis qu'on plonge maintenant avec toi dans cette aventure en Thaïlande?
Mais moi, ça me plaît, tu sais, cet humour, je fais les mêmes jeux de mots, donc moi, ça me parle, ça.
Parfait, on est connectés. Nicolas, je rembobine juste un tout petit peu sur ton année 2022 avant qu'on embarque avec toi pour la Thaïlande. C'est une année qui a été contrastée, qui a été aussi marquée par une blessure, notamment au genou, qui t'a contraint à renoncer au championnat d'Europe aux Canaries en juillet. Comment toi tu vis ces moments-là, la gestion de la blessure? Est-ce que c'est quelque chose aussi sur lequel, au regard de tout ce que tu as pu raconter jusqu'à maintenant, qui pareil te fait pas avoir une chute de morale incroyable, ou que tu prends avec philosophie et patience? Est-ce que tu as du genre à vouloir aller plus vite que la musique pour essayer de vite récupérer au risque de prendre des risques et d'aggraver la situation? Comment est-ce que tu vis ces moments-là?
Déjà, je pense qu'on peut prendre un peu de recul quand tous les jours tu fais ce que t'aimes, je considère que t'as pas vraiment le droit d'être malheureux, parce que finalement, oui, bon, bah, tu peux pas faire une compétition, c'est pas très grave, c'est pas non plus, tu vois, c'était pas mon premier maillot bleu, donc bon, voilà, c'est jamais facile de laisser la sélection, mais c'était une blessure qui était un peu particulière, parce que c'était pas une vraie blessure où, bon, quand j'avais une fracture de fatigue en 2018, là, à moins d'avoir un déséquilibre un peu psychologique, faut faire du repos. Il y a pas à tortiller. Là, c'était une gêne,
une pathologie qui
était un peu nocive à la performance, mais qui m'empêchait pas de pratiquer. C'est vrai que j'aurais dû faire du sport, donc j'avais du mal à m'arrêter. Et finalement, c'est vrai que cette sélection, ce respect que j'ai pour le maillot, a été finalement un élément déclencheur pour prendre la décision de se soigner, parce que je me suis dit, là, tu cours pas que pour toi, tu cours aussi pour l'équipe, et qu'en fait, t'as pas le droit de prendre la place de quelqu'un qui sera sûrement meilleur que toi, parce que en plus tu pourras pas faire en sorte d'être à 100%. Et donc voilà, j'ai pris la décision, je savais pas trop où on allait, mais je savais que c'était pas non plus un arrêt très très long. Après, ce qui est particulier, c'est que on a je sais pas si on a donné le timing, mais c'est on est début juin, donc c'est vrai que là tu es quand même en pleine saison trail, et c'est vrai que si tu pars si tu laisses 2-3 mois à cette période de l'année, c'est pas pareil que 3 mois entre novembre et le mois de janvier, par exemple. Donc, il y avait un petit peu d'inconnu. Après, comme j'ai quand même pas mal de recul sur ma carrière, et que, voilà, je continue à faire de la compétition, mais que je sais que j'ai déjà vécu des belles choses, et que c'est pas hyper important d'être ultra performant. Je suis pas dans une construction de carrière. Je me suis dit, je vais me reconstruire et puis on verra où ça me mène. Et j'étais beaucoup plus dans cette reconstruction, plus que dans des objectifs qui allaient se concrétiser si j'étais apte à courir. Mais je me disais pas, faut que je sois à tout prix sur les courses de l'UTMB ou faut que je le sois à tout prix au championnat du monde, je me disais, bah, on verra, on revient tranquillement. Et puis donc, du coup, c'était quelque chose qui était très dans le quotidien. Et ça m'a permis aussi, enfin, j'étais accompagné de rencontrer mon kiné actuel qui était vraiment quelqu'un de très brillant, qui m'a accompagné, qui avait plus de sagesse aussi que moi, qui m'a permis d'accepter d'être dans un vrai process de retour vers la performance plutôt que de vouloir courir et puis de vouloir monter trois marches et d'en redescendre deux. Ben, des fois, il faut mieux monter une marche par une marche, ça va plus vite.
On s'est croisé à la veille de ton OCC, je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que ça a été une surprise pour toi de performer? Tu as été sixième de cette course. Est-ce que ça a été... parce que pour situer, c'est fin août, donc ouais. Voilà, c'était pas si loin de...
Je ne sais pas si je l'avais évoqué, mais comme je l'avais prévu, c'est-à-dire en faisant preuve d'humilité sur mes capacités du moment, c'est-à-dire de ne pas être, entre guillemets, le Nicolas qui a un palmarès, mais le Nicolas qui revient de blessure et qui... n'est pas capable de jouer les premiers rôles à la régulière, on va dire, c'est-à-dire de partir dans le groupe de tête comme j'avais pu le faire l'année d'avant pour terminer à la même place. Mais l'année d'avant, je me sentais vraiment bien et j'avais envie d'être acteur et de me dire, bah voilà, où ça peut te mener, ça avait été dur, mais là, ça a été une course par l'arrière. Et donc, quand tu cours par l'arrière, t'es quand même dépendant aussi des autres. Je pense qu'il y en a qui sont partis trop vite, qui étaient peut-être meilleurs que moi, ce qui m'a permis de bien remonter. Je pense que finalement, bon, j'étais peut-être mieux aussi que ce que je prévoyais. Parce que je pense qu'avec le vécu, on revient, il y a beaucoup de mémoire musculaire, donc on revient assez vite. Mais c'était aussi quand même là un petit peu, quand j'ai vu que les sensations revenaient aussi, quand même un peu dans l'après, de se dire l'objectif, ça va être les championnats du monde. Et que là, ce jour-là, c'est de montrer que je suis déjà revenu à un bon niveau de forme, qui fait qu'en étant quand même, entre guillemets, quelqu'un qui peut être un cadre en équipe de France, le fait de montrer que je pouvais monter en puissance, ça pouvait être déterminant au-delà de la place pour faire partie de l'aventure à Chiang Mai.
Quelle place elle tient aujourd'hui, l'équipe de France, dans ton cycle de carrière dans lequel tu es aujourd'hui? Est-ce que ça peut prendre le pas sur des compétitions individuelles? Est-ce que c'est un complément génial? Enfin, qu'est-ce que t'apporte un peu cette expérience-là aussi, en parallèle de toi, tes enjeux plus personnels sur les courses? Quelle place ça joue?
Moi, j'aime beaucoup l'équipe de France. Hein. J'ai jamais raté une sélection depuis que je rentre en équipe de France. Alors, des fois, j'ai pas pu honorer ma sélection, mais je m'étais, je crois, plus ou moins qualifié à chaque fois. Donc, ça tient beaucoup de place. C'est pas toujours facile parce que je pense que c'est renoncer à certains gains matériels sur d'autres courses, qu'ils soient financiers, sur des primes. C'est un choix, c'est des belles aventures, c'est représenter pour son pays et pour moi dans le sport qui est grandi en étant gamin. Voilà, tu vois, enfin, on a parlé de mon itinéraire sportif, mais en fait, porter un maillot national quand t'as 23, 24 ans, tu fais pas du sport de haut niveau, c'est quelque chose qui est quand même, alors qui existe dans le trail, mais normalement dans les autres sports, je pense qu'ici à 23, 24 ans, t'es pas athlète de haut niveau, c'est quand même mort pour représenter un jour ton pays. Et donc, il y avait quand même ce rêve, tu vois, à chaque fois qu'il y avait le maillot bleu, quand je regardais la télé, de voilà, vraiment cette appartenance au maillot. Et donc, ça, pour moi, c'est important. Et puis, c'est surtout quelque chose qui peut pas s'acheter. Et donc, du coup, il faut s'investir pour avoir le droit de représenter son pays. Et c'est aussi parce que c'est important que j'ai renoncé au maillot pour les Europes, parce que j'estime que c'est quelque chose qui dépasse le cadre personnel. Après, j'aimerais qu'il y ait une meilleure prise en compte des différents calendriers pour favoriser le plan sportif pour les athlètes, parce que ce que je pense tout le monde a envie de voir, c'est les meilleurs coureurs s'affronter de manière régulière comme dans tous les sports structurés.
Il était comment le Nicolas Martin quand il a porté pour la première fois le maillot de l'équipe de France? Est-ce que tu étais écrasé par une grande responsabilité et puis peut-être un rêve de gosse quand même d'avoir un jour un maillot bleu, blanc, rouge, ou est-ce que tu as été... très à l'aise, ou c'était un peu entre les deux?
Ouais, écrasé, peut-être pas, mais il y avait quand même une pression. Tu vois, je te parlais que j'avais pas beaucoup d'émotions, mais j'en ai quand même un petit peu. Tu vois, j'ai quand même pleuré une ou deux fois sur des courses. La première fois, ça a été au Templier en 2012, quand je me doutais que j'allais pouvoir porter ce maillot-là. Après, le jour de la course, le premier championnat du monde en 2013, je me rappelle, je sais plus si j'avais le cardio, mais que j'avais vraiment les pulsations comme en 2010, la première fois que j'ai pris le départ des Templiers, qui sont hyper hautes avec la pression.
130, c'est ça? Non, j'avais entendu ça.
Ouais, 130, ce qui est, tu vois, moi, c'est quand même déjà une allure presque d'endurance, quoi, chez moi, parce que j'ai pas les pulsations qui montent très haut. Donc vraiment, vraiment, ouais, c'était quand même vraiment quelque chose de d'émotif. Après, vu que j'avais un statut, on va dire, de nouveau, de c'est pas sur moi qu'on comptait, tu vois, pour l'équipe, c'était un peu plus facile parce que je pouvais me permettre de faire ma course. Et si Nicolas était le sixième de l'équipe, bah c'était plus ou moins normal, tu vois. Alors qu'après, j'ai pu avoir des responsabilités qui étaient un peu plus importantes parce que j'avais un autre statut dans l'équipe. Mais j'avais aussi cet autre statut parce que j'avais des résultats et donc j'avais aussi plus d'expérience et donc une plus grande capacité à gérer ça.
Nicolas, tu t'en es pas rendu compte, mais là, on est début novembre et on est en Thaïlande. Est-ce que tu peux nous parler des 10 jours qui ont précédé la course? Vous êtes arrivé plus tôt sur place. Qu'est-ce qu'on fait les 10 jours qui précèdent une course? Et puis surtout, qu'est-ce que tu as découvert en arrivant spécifiquement là-bas en Thaïlande? Ça a été quoi un peu les challenges et les choses que tu mesurais pas tout à fait avant d'y être?
Alors déjà, pourquoi les 10 jours? Parce que ça a quand même un coût financier hein, d'être de loger une telle délégation pendant 10 jours. C'était vraiment la spécificité du climat thaïlandais, donc un climat tropical, assez humide, donc il fallait de l'acclimatation. Comme tu l'as dit, on est début novembre, donc l'acclimatation à la chaleur et à l'humidité en France, bon, à l'humidité c'est possible, mais à la chaleur c'est plus compliqué. Donc du coup, il y avait ce besoin pour que notre corps soit pas trop stressé de subir ces stress avant la course, d'où le choix d'avoir une dizaine de jours. Souvent on dit que 7 jours ça suffit. Donc ça nous a permis donc cette acclimatation et puis aussi de reconnaître quasiment tout le parcours, même sur le parcours long, on avait presque tout vu avant la course, donc ça c'était un vrai plus. Donc sinon pour résumer, c'est manger, dormir, s'entraîner, récupérer les 10 jours avant. Moi je
Et le manger était pas si simple que ça d'ailleurs.
Par
rapport à la gastronomie locale.
Ouais,
ça,
nous on était plutôt dans des hôtels un peu occidentaux, donc on avait plutôt une nourriture quand même à l'occidentale, justement aussi pour pas trop perturber nos habitudes. Mais ouais, moi j'ai un peu du mal, même si j'essaye de profiter, mais quand je vais sur ces événements-là, j'ai vraiment pas une casquette de touriste. Je sais que tu vois, ça partait d'une très bonne intention et c'était très bien. Le dimanche quand on est arrivé, donc je crois qu'on est arrivé le jeudi, il y avait une belle visite, tu vois, à vélo dans des rizières. Et moi, tu vois, j'ai fait le choix de pas y aller parce que bon, c'était me priver, mais je me suis dit là, je viens faire une compétition, passer une journée dehors dans la chaleur, c'est pas ce qu'il faut faire si tu veux optimiser ta performance. Et donc du coup, je suis resté à l'hôtel. Alors bon, j'ai pas vu ce genre de choses, mais je sais que ce qui me motivait, c'était déjà. Et puis surtout, je savais que j'avais des jambes pour faire une bonne course aussi. Tu vois, si j'avais eu l'impression d'être complètement à la rue, j'aurais peut-être fait un autre choix. Mais voilà, donc il y a ça, c'est beaucoup de repos dans les jours avant, c'est ce qu'il y a des fois de plus limitatif, on va dire, dans le sport de compétition, c'est de pas pouvoir pleinement profiter de ce que t'aimes faire à certaines périodes parce que pour optimiser la performance, c'est nécessaire de se reposer.
Faut le faire après, faut se dégager un peu de temps après, mais
c'est ça, mais c'est pour ça aussi que je prétends plus faire de vouloir faire du très très haut niveau parce que en fait je sais ce que ça implique et que j'ai pas envie de vivre ça parce que ça a moins de sens pour moi aujourd'hui quoi.
Tu peux nous parler de la place que tient Adrien qui est le sélectionneur de l'équipe de France, quel est son rôle et puis comment est-ce que ça peut s'interfacer avec chacun les encadrements que chaque athlète peut avoir, ses coachs, etc. Est-ce que peut y avoir des dissonances? Est-ce que c'est concerté? Enfin c'est quoi le périmètre d'action d'Adrien au-delà de fédérer, etc., et d'avoir le leadership pour emmener tout le monde dans la même direction? Est-ce que voilà, il y a lui et puis le staff à ses côtés qui rentre vraiment dans des périmètres que toi tu as déjà un peu encadré avec ton staff personnel?
Disons que on parlait du manque de structuration un petit peu de notre sport. Le bon côté de ça, c'est qu'on a quand même affaire globalement à des vrais adultes, mais dans le sens où tu vois, on n'a pas affaire à des jeunes athlètes, alors à part chez les juniors, mais tu en as quand même des gens qui normalement ont la tête sur les épaules. En plus, tu connais un petit peu les formations des différents athlètes, mais voilà, quand tu as affaire à des médecins, c'est quand même des gens qui, je pense, ont la tête sur les épaules et tout. Donc, il y a quand même toujours un choix assez libre qui est laissé aux athlètes de gérer leur préparation. On leur impose pas forcément. Alors après, je pense que c'est du savoir-vivre aussi, tu vois, quand tu vis dans un groupe, tu vas pas aller faire toutes tes séances de ton côté, ça, enfin, si c'est pour faire ça, c'est pas la peine de venir dans un stage, par exemple. Mais du coup, il y a quand même une liberté qui est laissée aux athlètes pour se préparer au mieux. Donc du coup, par exemple, dans les stages, Adrien, il va proposer une trame générale. Bon, normalement, quand même, on fait pas des choses très différentes dans ces périodes-là d'un entraîneur à un autre parce que bah c'est la période spécifique, donc voilà, les séances elles peuvent pas être les mêmes, mais normalement elles vont respecter une logique qui est assez similaire, donc bah, tu peux t'adapter pour être avec le groupe. Après Adrien, il a vraiment amené, je pense, un côté un peu plus professionnel dans la préparation, dans la présentation des parcours. Il a amené un petit peu ça, je pense, de par son expérience qu'il a dans le milieu, qu'il propose sûrement aussi aux athlètes qui suivent, de voilà, de bien reconnaître les parcours en amont pour optimiser la perf. Après, il est très impliqué. Il est comme il est aussi coach, il a quand même pas mal de proximité parce qu'il a quand même quelques athlètes qui sont en équipe de France aussi. Donc ça, je pense que ça permet aussi pour lui d'avoir une bonne connaissance des athlètes qui sont là et puis peut-être d'avoir un peu plus de temps pour comprendre ceux qui ne suivent pas au quotidien. Après, il nous fait quand même globalement confiance. Normalement, si t'es là aussi, t'as pas gagné un tirage au sort. donc c'est que normalement, t'as quand même un petit peu d'expérience. Mais après, il y a énormément d'humains dans ce rôle-là parce que c'est pas un rôle d'optimisation de la performance au quotidien. C'est un rôle de mettre les athlètes dans les meilleures dispositions. Donc après, dans des cas comme le mien là avant cette course là, c'était plus de faire un peu des scénarios de course pour confirmer, infirmer si t'as pensé à quelque chose et que quelqu'un qui a quand même du recul comme Adrien te dit ouais c'est plutôt une bonne vision, faut faire ça, bah ça va te conforter dans ton choix, ou au contraire si te remet un peu en question, tu vas dire bon bah oui effectivement c'est une autre vision. Donc après c'est des discours globales. Après ce qui caractérise, je pense, quand même un athlète qui est capable de bien optimiser son potentiel, c'est aussi cette capacité à prendre la bonne décision au bon moment pendant une compétition. Et ça passe beaucoup par l'expérience. Et c'est souvent pour ça que on a des jeunes athlètes, par exemple, qu'on va voir très fort sur des courses plus courtes ou sur des entraînements et qui n'ont pas forcément cette capacité tout de suite à performer au même niveau sur des courses plus longues parce qu'ils ont, je pense, pas toujours cette capacité d'analyse qu'a un athlète qui est un peu plus âgé. Donc le monde est bien fait, souvent tu régresses un peu physiquement avec l'âge, mais tu as un peu plus d'expérience pour compenser, quoi.
Qu'est-ce qui se dit, Nicolas, enfin je peux pas parler de toi à la troisième personne, qu'est-ce que tu te dis la veille de la course, l'objectif et l'ambition? Est-ce que tu as une conviction un peu sur à quoi ça va ressembler demain et sur quoi tu te projettes? Tu te rêves et tu t'imagines sur la boîte? Est-ce que t'es pas du tout à ce niveau-là d'anticipation et de confiance sur le résultat que tu pourrais obtenir, ou est-ce que tu penses pas vraiment?
Moi, j'ai toute la prépa, je passe pas mal de temps avec Thibaut Garivier, du coup on voit qu'on est très proche. Moi dans ma tête, je suis même pas sûr de la trop concrétiser, mais le rêve c'est déjà de gagner la médaille d'or par équipe en faisant tous les deux parties des trois coureurs qui comptent. Et un petit peu sur les derniers jours, dans un coin de ma tête, je me dis tous les deux sur la boîte, je me dis vraiment. Avec tu as parlé des forfaits de Tom Evans, Anestenberger. Quand ils étaient là, je me dis bon voilà, c'est compliqué parce que sur le podium il y a quand même que trois places. Si déjà t'es deux, faut dire qu'il faut battre quand même vraiment des top coureurs et que les deux coureurs français battent ces top coureurs. Donc mais bon, avec un peu les défections, je me dis vraiment, clairement tu vois, si je te dis comment je voyais la course, alors on va dire à J-2 parce qu'à J-1 ça va changer un petit peu, on va en parler, mais à J-2, je dis Adam, Thibaut et moi, le podium. Voilà, après Thibaut va être un peu malade le dernier jour. Et donc là, à ce moment-là, je me dis vraiment le matin de la course que, comme un peu en 2016, alors je me le dis moins qu'en 2016 parce que j'ai évolué, je pense, vraiment en termes de personnes et que bon, un podium, c'est pas non plus... c'est juste une norme, mais finalement, avant tout, moi, ce que j'ai envie, c'est de faire une belle course. Mais je me dis quand même qu'en termes de résultats, si je suis pas sur le podium, c'est quand même une petite forme d'échec, quoi. Parce que j'ai vraiment le sentiment de me sentir bien les derniers jours, d'avoir pas beaucoup de coureurs que je juge meilleurs que moi, ou en tout cas des coureurs où je me dis si je fais une bonne course, je peux les battre. Voilà, au départ de la course, il y a un coureur, j'ai jamais couru avec lui, mais ce que j'ai déjà vu, je me dis qu'Adam, il va être dur à battre. Surtout qu'il a fait quand même une saison sage, il a pas couru depuis la Western, donc tu te dis ça va pas être le mec qui arrive cramé. Donc là, vraiment, je me dis qu'il y a moyen d'être sur le podium si tu fais pas n'importe quoi.
Nicolas, nous sommes le vendredi 5 novembre, il est bientôt 6h30 du matin. J'ai l'impression de faire une annonce dans un aéroport. Ça part fort, Il y a une grosse ascension qui est imposante d'entrée de jeu, une grosse montée de 1000 mètres. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la façon dont la course a démarré et puis ce petit groupe qui s'est formé assez naturellement dans les débuts?
On parlait un petit peu des tactiques et là, je commence par faire l'opposé de ce que m'avait conseillé de faire Patrick, c'est-à-dire ne mène pas, je mène au bout de 500 mètres le parcours, la course. Donc du coup, bon, un petit peu dans ma tête, je me dis non, faut pas faire ça. Au bout d'un quart d'heure, je rentre dans le rang. Je me mets un petit peu à, je pense, 4-5e position. Et là, la montée se déroule et puis on arrive au sommet. On est à peu près 8 coureurs. Il y a 3 Français, Paul, Thibaut et moi. Puis Adam, je crois 2 Espagnols.
Andreas.
Borja Fernandez, Andreas Reiterer et puis un Suédois. Et voilà, donc la course continue. Donc là, premier pointage au bout de 8,5 km. Donc on a les zones de ravitaillement d'équipe, on va passer 3 fois à cet endroit-là. Donc là, on récupère un petit peu nos vivres parce qu'on va faire une grande boucle avant de les revoir. Et donc là, on repart pour finir réellement la montée parce qu'on avait encore un petit peu de montée. Et là, la course commence vraiment à se décanter quand même parce que dès le CP2, je crois qu'on n'est plus que 4-5 devant avec des petits écarts qui se créent. Puis cette petite essaim va faire que s'essaimer au fil de la course, même rapidement dans la course, parce que au kilomètre à peu près 30, donc on va chercher un point de ravitaillement, le CP3 qui est en aller-retour sur une route, et là Adam commence à accélérer, ou je sais même pas s'il accélère, j'ai l'impression qu'il était tellement facile que bon, il reste dans son rythme, mais là moi je le sens que ça va vite, bon, déjà parce que c'est dur, parce que mon cardio commence à s'affoler, puis parce qu'il n'y a plus que moi avec Adam. donc là, je me dis, oula, là, on est quand même qu'au kilomètre 30, donc je décide de temporiser un petit peu, de lui laisser quelques dizaines de mètres d'avance. Après, il court avec moins d'eau que moi, donc du coup, je le passe au ravitaillement, au kilomètre 30.
Le terrain juste avant n'était pas très simple, c'est ça, un peu raviné?
Ouais, beaucoup de pistes sur ce parcours, mais pas des pistes comme on les imagine chez nous, des pistes forestières bien propres. Non, c'est beaucoup des pistes souvent avec des parties un peu bétonnées pour que les 4x4 puissent passer, mais à côté, c'est souvent raviné, et puis du coup, sur le béton, ça tape un peu, donc t'as pas toujours envie de descendre dessus. Donc ouais, mais un parcours globalement qui était assez ludique parce que malgré beaucoup de passages avec des pistes larges, il y avait toujours des entrecoupés de petits singles qui étaient sympas, donc c'était jamais trop monotone en termes de profil.
Il y a donc le CP3 que tu vas emprunter à rebours, donc tu vas prendre le chemin en descente après avoir passé le CP3. Il y a Adam qui commence à prendre le large, qui fait des chassés croisés avec l'Italien Andreas Reiterer. Est-ce que toi, l'idée, c'est de surtout pas laisser filer, ou est-ce que tu commences déjà à dire que Adam, notamment, va être un sacré concurrent et qu'il va être compliqué de s'accrocher à lui?
Bah là, du coup, au CP3, comme je le dépasse, là, je suis en tête de course pendant un petit moment. Et donc là, dans la descente, vu qu'on est sur un aller-retour, je croise tous mes équipiers. Ça permet un peu de juger des écarts, de les encourager, de se motiver. Et après, dans la montée suivante, je vois plus trop, je crois, en bas de la descente, j'aperçois plus Adam. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Je pense qu'il est resté très longtemps au ravitaillement, en fait. Et après la course, il m'a dit qu'il avait très soif. Et je pense qu'il a pris vraiment son temps. Et là, dans la montée, il y a une montée, je crois, qui fait 500 mètres de dénive. Et là, je me concentre un petit peu. Bon, je regarde un peu les écarts en bas. Puis après, je me mets dans ma bulle et je monte, je sais plus trop dire, mais 5 minutes. Et j'avais jugé qu'il y avait un écart quand même assez important. Et là, d'un coup, je vois, il est juste derrière moi. Et là, je me dis, ah oui, là, quand même, ok. Il revient vite et donc bon, il me revient dessus. Heureusement, dans une petite zone de replat, donc je ne saute pas immédiatement. Et donc là, je tente un peu la tactique de bluff malgré mon anglais très limité. Je lui dis, le parcours est encore long, c'est dur, il fait chaud. Ce serait bien de temporiser un petit peu, tu vois. Bon, je sais pas si c'était bien de lui dire ça, mais je lui dis pas, tu sais, je suis fatigué, mais je dis, ouais, bon, maintenant on est devant, est-ce que c'est la peine de continuer à accélérer? Et bon, ça a marché 1 km.
Et là, dans la. T'as dit, tu bluffes, Martoni?
Ouais. Ouais, là, dans la montée suivante, que c'était un parcours, on s'était un peu trompé à la reco, donc on l'avait pas vu, mais bon, j'avais vu sur la carte que ça me paraissait bien raide. Et là, je me suis dit, ouais, bon, là, quand même, on est au 37e kilomètre, je me suis dit, il y a quand même marché, quoi, dans cette bosse. Et là, bon, il court tout. Et là, je me dis, ah, bon, d'accord, tu vas pas gagner la course, sauf s'il lui arrive quelque chose. Et donc là, c'est un petit peu dur mentalement parce que bah forcément, tu vois, enfin, j'ai déjà fait deuxième, donc bon, c'est beau de refaire deuxième, mais tu vois, le rêve, c'est quand même une fois d'essayer de faire premier. Et donc là, vraiment, je me prends un petit coup derrière la tête parce que c'est un peu plus dur que ce que j'avais prévu à ce moment-là. Et puis, je perds, tu vois, cette... parce que là, vraiment, j'ai tellement l'impression qu'il est au-dessus que je me dis, ouais, voilà, c'est pas possible. Bon, derrière, je reste dans un petit moment un petit peu trop encore dans la bataille où je pense que je cours un petit peu vite encore, trop vite par rapport à vraiment mon allure, trop dans le fait de vouloir rester devant. Donc là, je vois une dernière fois quasiment Adam en vrai visu, quoi, pas sur des allers-retours. Puis après, l'écart fait que se creuser. Et là, j'ai un petit peu, on va revenir vers le CP5, qui est une zone d'assistance d'équipe. Et là, j'ai un moment...
au 50e kilomètre à peu près.
Ouais, vers le kilomètre 50. Là, je suis vraiment au moment le plus compliqué de ma course. On redescend en fait sur ce CP, donc enfin aller-retour, on est déjà passé. Là, dans la descente, bah il y a Olivier Guy qui s'occupe du running à la Fédé, Adrien Séguré. Et là, j'ai des crampes. Je dis à Adrien, même à ce moment-là, dis aux autres de s'accrocher parce que ouais, il y a une petite partie de moi qui se dit ouais, je sais pas si je vais réussir à finir la course quoi, parce que c'est ça crampe dur. Et là, il va y avoir 10 km de descente, donc je me dis si ça crampe comme ça, ça va être long les 10 km de descente. Et bon,
surtout qu'il y a une ascension assez costaud derrière.
Ouais, mais c'est surtout en fait ce qui m'inquiète à ce moment-là, moi, c'est vraiment ces 10 km de descente, parce que si tu crampes et que tu es obligé de descendre à l'arrêt comme je dois le faire un peu là, tu perds énormément de temps, surtout que c'était une piste où on pouvait courir vite. Donc je revois ma copine à ce moment-là, j'essaye de chasser un peu cette mauvaise idée. Et je sais pas si...
T'as une idée de ce qui se passe derrière, Nico ?
Bah non, je sais pas trop, mais je vais vite le savoir, parce qu'en fait, on fait un aller-retour là pour aller chercher le CP. Donc là, je vais croiser les coureurs. Je vois qu'il y a 2:30 à peu près, je pense, sur les coureurs derrière. 2 minutes. Je pensais vraiment qu'il y avait plus, parce que j'avais l'impression qu'on avait mené grand train. Du coup, c'est un petit coup au moral, mais ils m'ont bien refroidi, en fait, au ravito, parce qu'il fait chaud. Et là, vraiment, dès la descente, je me sens... mieux. Alors bon, j'ai un petit souci sur un lacet, sur une semelle, donc je m'arrête un petit peu. Donc là, je pense que je perds une petite minute. Mais je me mets vraiment dans le mode gestion de cette deuxième place dans la descente en me disant ça va taper cette descente, celui qui vont descendre vite, ça va être dur la remontée derrière. Et donc je gère vraiment ça, un petit peu déconnecté de la course, juste maintenir un tempo, mais gère ta deuxième place. Et je me dis je n'accélérerai que si j'ai nécessité de suivre un coureur qui revient de l'arrière. Et finalement,
t'as le sentiment que t'as suffisamment d'avance là, les 2:30 dont tu parles sur Andreas?
Bah, finalement, ça va
suffisamment confortable.
Pile l'avance nécessaire, parce qu'en fait, en bas de la descente, au moment où je finis de me ravitailler, Andreas arrive et il se ravitaille, je pense, un petit peu plus vite que moi, et on repart. Je pense vraiment, il y a 10 secondes d'écart, je pense, au moment où on repart du ravitaillement. Et là, par contre, je savais que pour descendre vite, ça allait sûrement laisser un peu des traces. Et là, moi, dans ma tête, je me dis vraiment, là, c'est les moments de lui mettre la tête sous l'eau, entre guillemets. Donc, je fais vraiment un effort soutenu dans les 10-15 premières minutes de la montée, qui, en plus, je sais, est pas trop dure. Elle permet de courir un petit peu encore. Donc là, je pense que ça lui met un peu un coup moral, parce qu'il se dit, t'es un peu euphorique en disant, ah, bah, c'est bien, je reviens. Et puis là, le mec, direct, il te remet un écart. Tu fais, ah, bah, non, en fait, il gérait. Puis là, après, c'est un peu mode gagne terrain jusqu'à la ligne d'arrivée. Enfin, en tout cas, jusqu'en haut de la montée d'abord. Où là, je vais avoir des vrais écarts, avec Adam. Et qui vont être plutôt quand même salvateurs, c'est-à-dire que ça va complètement me décharger mentalement d'essayer de gagner la course, parce que là, dans la montée, on va me dire qu'il a 9 minutes. Alors, ça me met un peu un coup, parce qu'en bas, on m'annonce un écart, en fait, qui était précédent, et donc à 1:30, on me dit en bas, et là, au milieu de la montée, on me dit, enfin, pas aux 2/3 de la montée, on me dit 9 minutes. Je me dis, mais comment c'est possible? mais bon, il m'a quand même mis 4 ou 5 minutes. Donc, voilà, et après là je passe vraiment en mode maintenant je me dis que j'avais suffisamment d'avance pour maîtriser la médaille jusqu'à la ligne d'arrivée si je fais pas n'importe quoi. Alors par contre c'est dur physiquement, donc t'as quand même un peu hâte que ça s'arrête et que vraiment ça se concrétise que dans les 2 derniers kilomètres, la médaille, quand vraiment il peut plus rien t'arriver, parce que ouais, tant qu'il y a une descente t'es pas à l'abri d'une cheville, ce genre de choses. Donc ouais, vraiment être resté un peu dans le fait d'avoir toujours été presque médaille d'argent quoi, toute la rapidement dans la course, mais de le concrétiser vraiment que très proche de l'arrivée quoi. Donc du coup c'était une sensation assez particulière là-dessus quoi.
Tu conclus ces 80 km à une exceptionnelle deuxième place, donc vice-champion du monde derrière Adam Peterman, on l'aura compris, après 7h28 d'effort. J'ai envie de te demander ce que tu ressens à ce moment-là, mais tu m'as dit que t'étais une machine et que tu ressentais pas d'émotion. Est-ce qu'il y a de la place quand même pour ça? Qu'est-ce qu'elle a de différent peut-être avec ton autre titre de vice-champion du monde? Comment est-ce que tu vis ces moments-là.
Ouais, c'est très différent, ça, clairement, de l'autre titre, parce que c'est quelque chose que je m'attendais plus à vivre. Donc, je me dis là, il y a quand même vraiment une chance que ce soit la dernière fois. Alors que c'était pas du tout le cas en 2016 où je m'imaginais revivre une médaille mondiale. Donc là, il y a ça. Après, il y a beaucoup de fatigue parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui marquent pas comme ça, mais moi, j'ai l'impression que, voilà, c'est vraiment le cerveau me tient, mais là, dès que je passe la ligne, c'est la fatigue te submerge et donc du coup t'as juste une envie, c'est de te mettre des glaçons sur le cou, et puis c'est vraiment, et pour le coup il fait quand même très très chaud pendant la course, ça a été, mais là il fait, je sais pas, 30-32 degrés, ouais, c'est vraiment la fatigue qui est un peu là pendant, en fait la fatigue est très marquée d'un coup, donc t'as beaucoup d'émotions je trouve jusqu'à ce que tu franchisses la ligne là dans ces 200-300 derniers mètres, mais dès que tu passes la ligne t'as vraiment ton cerveau qui relâche. Et du coup, c'est un peu la fatigue qui te submerge à ce moment-là. Après, t'as tout de suite quand même un peu une effervescence, j'ai l'impression, et une sensation que ça fait plaisir aux gens de me voir deuxième parce que ça fait quelques années que je suis dans le milieu et puis que j'étais peut-être pas celui qu'on attendait chez les Français à cette place-là. Donc, en plus de quelque chose de purement du timing, je crois qu'il est 8 heures en France au moment où on arrive, plus ou moins. Donc, c'est aussi le lever pour tout le monde. Donc, voilà, un beau moment. Et puis des beaux résultats d'ensemble des équipes. Donc, une joie qui n'est pas juste personnelle, qui est aussi partagée avec les copains. Donc, ça, c'est aussi ça qu'on vient chercher dans le sport, je pense.
Nicolas, je vais te faire écouter un extrait de ce que tu m'avais dit au mois d'août, quand on s'était vu. Tu m'as un petit peu menti quand même, je suis un peu triste. Avec le temps, on va se rendre compte pourquoi.
Peut-être le meilleur résultat de ma carrière, c'est vice-champion du monde en 2016. Et maintenant,
meilleur résultat pour l'instant en carrière.
Pour l'instant. Après, je pense qu'il y a une partie de moi aussi, avec l'âge, qui évolue vers d'autres choses que performer à tout prix. Donc voilà, j'ai une telle passion pour le sport que je pense que je peux rester performant sans avoir cette volonté de performance à tout prix. Mais voilà, j'ai aussi conscience que peut-être mes meilleures années sont derrière moi, mais ça ne m'empêche pas de donner le meilleur moi-même.
Nico, donc on ne te croit plus. Tu nous dis que tu ne vas plus performer et puis résultat, tu
redeviens. J'ai pas fait mieux, j'ai égalé.
J'ai champion de monde. C'est vrai. En tout cas, quand tu me dis que le meilleur est derrière toi et que là, sur les prochains championnats du monde, voilà, ce sera difficile de faire aussi bien ou mieux, je ne te crois pas et je ne te le souhaite pas surtout.
Ouais, non, mais tu vois, c'est les opportunités aussi, parce que est-ce que s'il y a la même course avec un Thibaut qui n'est pas malade, avec Thomas au départ... Tom Evans au départ, pardon, Hannes Hamburger, tu vois, c'est, en fait, j'ai souvent dit ça, c'est que j'ai un niveau qui fait que je suis pas complètement capable d'avoir toutes les cartes en main et que il me faut aussi des circonstances un peu favorables pour que je sois à l'avant des courses. Après, le sport, c'est aussi des opportunités, j'ai eu la chance de répondre présent ce jour-là et il y avait d'autres coureurs qui avaient, je pense, cette possibilité de monter sur le podium. Ça a pas été le cas de tout le monde, donc ça, c'est quelque chose que je pense être encore capable de faire. Et après, je me suis entraîné quand même sérieusement et avec une vraie avec quand même une vraie envie de bien faire les choses. C'était pas forcément de gagner une médaille, le rêve, mais de bien faire les choses. Je suis parti en stage aussi dans un autre environnement, je pense que des fois c'est important. J'étais chez l'un de mes meilleurs amis, on rigolait, mais on disait, on vivait un petit peu en moine, c'est-à-dire que le matin on s'obligeait à faire une demi-heure dans la salle, un peu de muscu qu'il a pour se réveiller, pour faire de la méditation, avant d'aller au petit-déj, on finissait ça par une douche froide avant d'aller au petit-déj, et puis après il y avait l'entraînement dans la journée avec Thibaut, donc c'était vraiment quand même, pour le coup, mais c'était pas quelque chose qui me coûtait, quoi, c'était facile, et puis, tu vois, le championnat du monde est passé, je me suis dit, je vais continuer à garder cette routine, et j'y arrivais pas, parce que ça avait pas de sens à ce moment-là de faire ça, il y a des matins, ça a du sens, je le fais, mais alors que là, c'était naturel, je me levais, j'imaginais même pas aller au petit-déj avant de faire ça, tu vois, je pense que c'est des périodes, et je pense qu'avec l'âge, t'as moins cette capacité à peut-être le faire tout le temps, et donc du coup, faut accepter ça pour le faire dans les moments qui sont peut-être les plus opportuns.
Nicolas, on a parlé de tes battements cardiaques au début de la course, pour les premiers en équipe de France, là, c'était à des niveaux... bien moindre. Derrière ça, c'est plus pour illustrer l'espèce de détachement et de relâchement que tu as eu. Est-ce que tu penses que ça peut aussi contribuer à faire que les résultats soient là, cette expérience et le fait que la performance soit pas l'enjeu absolu, même si tu te prends en jeu et que évidemment t'avais des ambitions, mais finalement cette prise de recul et sur la course à pied, est-ce que ça fait aussi qu'il y a une pression qui est moindre et donc finalement ça met dans les meilleures dispositions pour réussir?
Moi, je dis souvent qu'en fait, en compétition, t'inventes rien. Tu répètes ce que t'as fait dans les semaines, dans les mois qui précèdent. Et donc, du coup, pour moi, courir le championnat du monde, c'est se dire ça va être 7h30 avec les copains qui vont être durs. Et ça, je l'ai fait plein de fois dans ma vie, donc je sais que je sais faire. Après, il faut pas faire n'importe quoi, mais ouais, je dors. Thibaut a été malade. Il m'a dit, putain, mais je l'ai regardé dormir toute la nuit parce qu'on était en chambre. Et il me dit, mais tu dormais, mais comme si demain c'était une sortie. Et finalement, tu vois, je me demande si d'un côté c'était même pas moins de stress, par exemple, la nuit avant les championnats du monde, que sur les plus grosses séances qu'on avait fait dans la prépa avec Thibaut, parce que là, tu sais que le but, c'est quand même d'optimiser ta performance, donc tu vas pas faire n'importe quoi, ça va pas forcément être dur tout de suite, t'as pas une fatigue liée aux autres séances d'avant, et donc, du coup, le fait d'avoir répété plein de fois des situations inconfortables font que tu les banalises, et on parle souvent de sortir de sa zone de confort, mais en fait, on peut pas trop sortir de sa zone de confort, et ça fait peur de sortir de sa zone de confort. Par contre, on peut l'élargir. Et ce qui était hors de ma zone de confort il y a 10 ans, c'est presque au milieu de ma zone de confort aujourd'hui, plus ou moins. Et donc, du coup, il y a une forme de relâchement. Je me prépare mentalement. Je sais qu'il y a des moments de la course que j'évoquais vers le 50e kilomètre où là, c'est super dur. Il y avait des moments de ma tête, je me suis dit, mais j'en ai rien à faire. Faire deuxième du championnat du monde, je veux juste que ça s'arrête. C'est trop dur, tu vois. Mais ça, c'est l'expérience qui fait que ça peut partir en vrille chez un jeune athlète, et chez un athlète qui a plus d'expérience, et ben ça traverse, ça reste là une ou deux minutes, et puis c'est mis dans un côté de la tête, et puis puis on passe à autre chose, quoi.
Est-ce qu'il y a une once de place pour un j'ai pas été champion du monde, ou est-ce que cette deuxième place, elle est totalement accomplissante? Est-ce que l'argent fait complètement ton bonheur, ou il y a un soupçon de quelque part de dire, ok, bah, ce que tu as évoqué tout à l'heure, de dire que peut-être tu serais jamais champion du monde, est-ce que ça met un poil d'amertume, ou ça a pas sa place du tout à ce moment-là, en tout cas juste après la course?
Bah, disons que les deux fois où j'ai été vice-champion du monde, le premier c'était Luis Alberto, il a gagné 3 fois les championnats du monde, il a un palmarès long comme le bras. Adam, c'est pas le cas, mais bon, il a déjà gagné une Western. Je pense que si on a cette discussion dans 4-5 ans, on dira, ah oui, c'était quand même dur de le battre, Nico. Donc non, les deux fois, j'étais battu nettement. Ça aurait été plus difficile si ça s'était joué à quelques secondes. Tu vois, si on avait eu un scénario, on avait fait une course de prépa avec Thibaut Garivier à Gap, où on finit au sprint, bah sûr, si tu perds la médaille d'or pour 5-6 secondes au sprint à la fin, ça, c'est sûrement peut-être un peu plus dur à digérer. Après, je sais pas, je suis pas trop dans le... C'est important pour avoir des gains matériels, d'avoir des résultats. Mais moi, je sais que si tu... C'est pas... Ça change rien, quoi. Champion du monde, vice-champion du monde, bon, c'est juste des mots, quoi. Finalement, moi, c'est plutôt le quotidien qui... Des fois, je dis que je fais encore de la compète juste parce que ça me permet d'avoir la vie que j'ai, plus que de vouloir être bon. C'est juste que moi, j'aime pas trop communiquer, j'aime pas faire des vidéos, donc en fait, si je veux vivre de mon sport, faut que je sois bon. Mais c'est pas à tout prix nécessaire, et puis j'essaye aussi un peu de l'inculquer, parce que je pense que c'est pas parce que t'as cette philosophie que ça t'empêche d'être bon, et je pense que les résultats que je peux avoir démontrent qu'il n'y a pas besoin d'être focus à 100% pour essayer d'être une bonne version de soi-même, quoi. Parce que la bonne version de soi-même, elle se construit au quotidien, et que c'est l'amour de l'entraînement qui fait que tu deviens une bonne version de toi-même, quoi.
L'équipe de France, elle a brillé plus globalement à titre individuel et collectif. Chez les hommes et chez les femmes, ça a été une très belle collecte et une très belle moisson de médailles. Ils ont écouté ta consigne, en fait, ils en ont mis partout, comme tu avais demandé.
Exactement. Et tu vois, ça, c'est important, ce rôle-là de ce que je commence à être, entre guillemets, un ancien, tu vois, de malgré l'enjeu, de dire tu peux déconner, et puis alors après, comme je disais en rigolant, je fais le guignol tout avant la course. Il fallait éviter de faire le guignol sur la course pour pas vraiment passer pour un guignol. mais du coup, non, je pense que ça, je sais pas si c'est ça, c'est aux autres qu'il faudrait demander, mais j'espère que ça leur a, aux plus jeunes, donné une manière de percevoir le sport, de se dire qu'on peut faire les choses sérieusement sans trop se prendre au sérieux.
Nicolas, merci d'être revenu sur cette course totalement épique. On va parler très rapidement avant de nous quitter de ton avenir dans les mois qui arrivent. Est-ce que Innsbruck et les championnats du monde en Autriche du 6 au 10 juin prochain, est-ce que c'est là, ton objectif central de l'année, ou en tout cas du premier semestre? Comment est-ce que tu vas les appréhender, là, ces championnats du monde?
Ouais, tout à fait. C'est mon premier objectif de la saison. Je vais repartir vraiment, et c'est pas de la fausse modestie ou pour se décharger de la pression, mais vraiment avec les mêmes ambitions que quand j'étais allé en Thaïlande, c'est-à-dire gagner le titre de champion du monde par équipe, ce qu'on n'a pas réussi à faire. Je pense que je serai encore moins le leader de l'équipe. Je ne veux pas mettre la pression à Thibaut, mais je sais que sur ce format-là, c'est vraiment pour lui, c'est encore plus montagneux qu'à Chiang Mai. Il peut vraiment faire quelque chose de grand. Bon, on annonce un Jim Wamsley, donc je connais assez le sport pour savoir que je peux pas battre Jim à la régulière, donc bon, après il peut lui arriver des choses, mais voilà, le but ça sera d'être une bonne version et puis d'essayer des nouvelles choses avec cette motivation là de peut-être partir un peu loin de chez soi pendant un stage en altitude par exemple de 4 semaines avec cette motivation là que tu fais pas si t'as pas ça. Donc c'est vraiment, tu vois, un petit peu, moi j'aime dire, la compète c'est un peu le phare qui te guide, quoi. Ce qui compte c'est le chemin qui va te mener jusqu'au phare, mais s'il y a pas le phare c'est moins facile d'y aller. Donc je vois un peu les choses comme ça, et puis partager dès le mois de mars sur les championnats de France de trail court, sur, voilà, pas le format qui me convient le mieux mais celui qui me motivait le plus par rapport au plateau. Et puis voilà, moi j'aime prendre part à ces courses, même si j'espère que ça durera le plus longtemps possible. Quand t'approches de la quarantaine, tu sais pas combien il en reste des années avec ces jambes-là et tout, donc faut en profiter intensément, quoi.
Surtout qu'à la quarantaine, tu t'es engagé, quand on avait échangé, sur un Ironman.
Ouais, je suis pas allé à la natation quasiment de l'hiver, donc là, ça devient critique. J'y repense, tu fais bien de le dire.
J'ai bien noté, je te le ressortirai. Il te reste encore un peu de temps, Nicolas, mais voilà. Objectif 40 ans, on en a parlé.
Faudrait que je mette des brassards sinon.
La bouée de nuts ou la bouée canard, t'auras le choix.
C'est ça.
Nicolas, c'est la dernière question de cet épisode. C'est pas le mot de la fin, c'est le motto de la fin. Est-ce que tu as une devise qui t'est particulièrement chère que tu aimerais partager avec nos auditeurs?
Je vais faire le sans travail, le talent n'est qu'un vilain défaut. Du coup, je sais pas si j'avais beaucoup de talent, mais du coup, j'ai essayé de mettre pas mal de travail dessus pour essayer de vivre un petit peu une partie de mes rêves, et puis surtout pour je pense que faut pas trop rêver sa vie, mais faut essayer de vivre ses rêves, et moi c'est ce que j'ai essayé de faire un petit peu en faisant le choix à un moment donné de quitter, alors je veux pas dire que j'avais une bonne place, mais le confort d'un CDI pour faire du sport de haut niveau. Et c'est un choix que j'ai jamais regretté, que si je devais revivre, je ferais juste le même choix quelques années avant.
Eh ben, tu nous as fait rêver, et toute l'équipe de France, les hommes et les femmes qui ont, voilà, fait rayonner aussi bien les talents qu'il y a en équipe de France et dans des si belles positions dans ces championnats du monde. Nicolas, c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Je n'ai rien vu passer, ça fait une heure et demie qu'on est ensemble. Merci beaucoup d'avoir partagé donc cette performance individuelle et collective qui a été exceptionnelle, et puis qui continue de t'inscrire durablement dans ce si beau sport et dans le haut niveau international de trail. Merci aussi pour ton franc-parler, ton regard très affûté, donc toujours très précieux sur cette si belle discipline qui est ta discipline de cœur. On l'aura compris, la passion est un moteur essentiel pour toi dans la vie. La course à pied t'apporte ça aujourd'hui, et on le perçoit. C'est génial de sentir la pureté de la relation que tu entretiens avec ce sport. C'est en tout cas un grand plaisir d'avoir pu vivre partout l'entremise ces championnats du monde haletants, qui soulignent si nécessaire combien l'équipe de France tient une place privilégiée dans l'élite mondiale, tant sur les formats courts que longs. Je te souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de succès dans tes rendez-vous à venir, et puis j'espère que tu pourras yodeler la Marseillaise, une médaille autour du cou en Autriche au mois de juin prochain. Je ne vais pas te demander de yodeler. Merci. Là maintenant, parce que tu ne veux pas chanter, mais...
Non, merci Guillaume. Et puis une petite phrase que j'aime beaucoup d'un athlète que j'ai eu la chance de côtoyer en équipe de France, qui est Cédric Fleurton, qui dit souvent le sport au service de la vie et pas la vie au service du sport. Et je pense que c'est hyper important, parce qu'on voit des fois un peu des choses où les gens sont déséquilibrés et se noient un petit peu là-dedans, et ça doit vraiment... permettre d'avoir une vie plus stable. Thomas Lorblanchet dirait que ça doit être la priorité des choses secondaires. Ça, c'est plus personnellement, moi, je pense, un choix qui est libre à chacun, mais l'esprit est un petit peu là, et c'est ça aussi qu'on essaye quand on est, entre guillemets, un ancien de véhiculer.
En voilà un deuxième motto de la fin bien joli qui va conclure cet épisode. Merci pour ta disponibilité, Nicolas. C'est un super moment.
Merci beaucoup.
À très vite. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu, alors n'hésitez pas à le partager autour de vous, et également à vous abonner, à noter et à rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour que Course Épique soit mise en avant et puisse ainsi continuer à se développer. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Merci encore infiniment pour votre soutien et pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle Course Épique, évidemment.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.